18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Europe 1. C'est parti pour deux heures d'infos, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir. Plusieurs grandes villes, hein, dont Paris, bloquées par les agriculteurs aujourd'hui. Nouvelle manifestation, donc le point complet dans votre journal. Sébastien Krebs, dans un instant. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On en débat bien sûr dès 18h30 avec les grandes voix. Avant, à 18h20, l'interview. Pédophilie et silence, voire mutisme de l'Église. C'est demain que s'ouvre à Lyon le procès en appel du cardinal Barbarin. Je reçois ce soir Pierre-Emmanuel Germain-Thil. C'est l'une des victimes du prêtre Bernard Prenat, ex-prêtre. Témoignage très fort dans 20 minutes. Il sera bien sûr demain à l'audience à Lyon. C'est sur Europe 1 que ça se passe. C'est même l'info qu'il vous faut. Soyez les bienvenus. C'est parti jusqu'à 20h. Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Demande à Emmanuel Macron tout simplement, c'est sauve ton paysan. Aujourd'hui, on est censé être le premier apporteur de nourriture français et aujourd'hui, on veut être reconnu tout simplement.
Un millier de tracteurs à l'assaut de Paris. Les agriculteurs venus dénoncer les prix trop bas de la grande distribution. Ils bloquent une partie du périphérique. Circulation encore très compliquée ce soir. Nous faisons le point dans quelques secondes.
Une délégation justement reçue ce soir au ministère de l'Agriculture. On sera à la sortie. Hein.
Au Mali, le dernier hommage aux 13 soldats tués se prépare. Un témoignage sur Europe 1, celle de l'épouse d'un soldat qui est actuellement en opération là-bas. Elle a pu le joindre ces dernières heures.
Pas une larme, pas un mot plus haut que l'autre. La mission continue, mais voilà, je sais qu'ils sont tous très choqués, mais tout sera bien fait pour qu'il y ait une belle cérémonie, parce que c'est ça l'armée aussi.
La ministre des Armées est sur place à Gao. Les dépouilles seront ensuite rapatriées pour un hommage national aux Invalides lundi après-midi.
Le dossier des retraites, Édouard Philippe confirme l'accélération du calendrier, un projet précis annoncé après la mobilisation du 5 décembre.
Le Premier ministre qui se dit ouvert sur la date d'application de la réforme, on vous dit tout ce soir de ce que cela implique.
26 secondes d'effroi aujourd'hui aux Assises de la Somme, l'enregistrement du dernier appel au secours d'Élodie Kulik avant son meurtre a été diffusé.
Et puis on a choisi de s'arrêter ce soir sur un secteur qui porte à l'international, celui du livre jeunesse.
La littérature de jeunesse en France est une des plus belles au monde et on s'est rendu compte au fil du temps que de plus en plus d'éditeurs étrangers venaient voir le salon.
Le salon de Montreuil précisément s'est ouvert aujourd'hui. Notre enquête à suivre. La Bourse de Paris toujours à l'équilibre à 5 926 points.
Et Anissa pour la tendance météo, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Le menu demain, il n'est pas franchement réjouissant. De la pluie et du vent pour presque tout le monde. Je vous donne tous les détails en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Des ballots de paille sur les Champs-Élysées et le périphérique parisien envahi par un millier de tracteurs. Les agriculteurs ont afflué de 6 régions ce matin à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour dénoncer notamment les prix trop bas dans la grande distribution et ce qu'ils appellent l'agri-bashing ambiant sur les pesticides notamment. Hélène Terzian, vous êtes au niveau de la Porte Dauphine en direct. Quelle est la situation ce soir? Circulation toujours compliquée autour de la capitale?
Oui, écoutez, pour l'heure ici, les voitures peuvent seulement circuler sur le périphérique extérieur, mais la portion du périphérique intérieur où je me trouve est toujours bloquée entre Porte de la Muette et Porte Dauphine, bloquée par les 80 tracteurs que j'ai face à moi et les agriculteurs réunis autour d'un feu sur la voie. Ils ne comptent pas s'en aller, explique Olivier Céréalier, dans l'heure, tant que leur représentant ne rencontre pas Emmanuel Macron.
Le seul moyen de faire pression pour qu'ils veuillent bien nous écouter, c'est d'ailleurs qu'on bloque le périph. On trouve ça même inadmissible de bloquer le périphérique. Mais M. Macron, il n'avait qu'à nous accueillir à partir de midi, on aura libéré tout de suite le périph. Il joue à faire pourrir la situation et c'est pas normal, c'est intolérable. On est dans une situation de marchandage.
Les agriculteurs restent bien déterminés à se faire entendre, notamment sur la question de l'agribashing, forme d'hostilité ressentie par le monde agricole, sur la loi alimentation qui ne les rémunère pas mieux, également sur les accords de libre-échange qui les pénalisent, disent-ils, pour Amaury Lévesque, secrétaire départemental de la FNSEA. Il faut tout simplement écouter le monde agricole.
On demande à Emmanuel Macron tout simplement, c'est sauve ton paysan. C'est écrit sur tous nos tracteurs, sauve ton paysan. Aujourd'hui, on est censé être le premier apporteur de nourriture français. Les agriculteurs s'appliquent pour proposer différents types d'alimentation. Et aujourd'hui, on veut être reconnu, tout simplement. On veut être entendu et jusqu'au bout.
Alors en ce moment, une délégation d'agriculteurs est reçue au ministère de l'Agriculture. Les représentants pourraient ensuite faire part des discussions de cette rencontre au niveau des convois des agriculteurs.
Hélène Terzian en direct pour Europe 1. Merci à vous des actions qui ont aussi été menées, Sébastien, en région lyonnaise. Hein.
Oui, des agriculteurs qui ont tenté de bloquer l'autoroute A6 en déversant des pneus.
Et c'est l'autre grand titre ce soir. Les dépouilles des 13 soldats tués au Mali vont être rapatriés en France dans les toutes prochaines heures.
Un hommage leur sera d'abord rendu sur place, sur leur base de Gao, où la ministre des Armées Florence Parly est arrivée cet après-midi. Elle y rencontre leurs frères d'armes, qu'on imagine évidemment très affectés. Écoutez ce témoignage ce soir, témoignage Europe 1. Stéphane Place a pu rencontrer à Pau l'épouse de l'un de ses militaires actuellement déployés au Mali. Elle a pu joindre son mari sur place depuis le drame.
Moi, j'ai pu échanger hier soir tard. Oui, pas une larme, pas un mot plus haut que l'autre. La mission continue, mais voilà, je sais qu'ils sont tous très choqués, mais heureusement pour eux, il n'y a pas de temps mort. Ils sont pris dans les procédures. Ils sont allés récupérer tous les corps sur place, ça je le sais. Les copains commandos sont allés récupérer leurs frères d'armes en morceaux, les ont ramenés. Tout sera bien fait pour que leur mémoire ne soit pas oubliée, pour qu'il y ait une belle cérémonie, parce que c'est ça l'armée aussi.
Témoignage Europe 1 recueilli par Stéphane Place.
Bonsoir Jean-Rémy Baudeau.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Vous nous le révéliez dès ce matin sur Europe 1, l'hommage national aux Invalides aura lieu lundi après-midi. Cérémonie toujours très codifiée, mais qui pourrait cette fois avoir quand même un caractère un peu différent. Hein.
Oui, vous le savez Nathalie, un hommage national répond à un protocole très précis de l'arrivée des cercueils à l'honneur au drapeau. L'émotion engendrée par la mort simultanée de 13 soldats change un petit peu la donne. Le président veut que l'ensemble de la nation soit représenté, explique l'un de ses proches conseillers. Emmanuel Macron a donc demandé à ses équipes que des élèves, des scolaires venus des communes dont sont originaires les soldats assistent à l'hommage national aux Invalides. Ça devrait être la seule touche un peu différente lundi prochain. L'Élysée revendique de préparer cette cérémonie en toute discrétion. Il faut surtout respecter le deuil des familles et des armées, confie un membre de l'entourage du président.
Les informations de Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et ce matin, lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a redit que la mission de l'armée française au Sahel est, je cite, primordiale dans la lutte contre le terrorisme et vise à renforcer notre propre sécurité.
Et pendant ce temps, l'exécutif avance aussi sur le gros dossier du moment, les retraites, bien entendu. On vous le disait hier, le calendrier s'accélère.
Fin de la concertation annoncée pour le 9 ou le 10 décembre, puis annonce précise du projet du gouvernement dans les jours qui suivront, donc après la mobilisation du 5 décembre. Voilà donc le déroulé annoncé aujourd'hui par le Premier ministre. Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir.
Édouard Philippe qui se dit ouvert, notamment sur la date d'entrée en vigueur de la réforme. Ça veut dire quoi, concrètement?
Oui, effectivement, le gouvernement semble ouvrir plusieurs pistes pour essayer d'assouplir un petit peu la réforme. Alors la première piste, c'est effectivement repousser la date d'entrée en vigueur. Jusque-là, on était sur 2025, ça pourrait donc être un petit peu plus tard. Mais il est aussi possible de faire en sorte que cette réforme concerne moins de monde que prévu. Comment on fait? Jusque-là, ce qui était avancé, c'est que la réforme commencerait à avoir un impact pour ce que l'on appelle la classe d'âge 63. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui ont ou qui vont avoir 56 ans cette année. Ils seraient passés sur les dernières années qui leur restaient à la réforme par points. Édouard Philippe le dit lui-même, le changement de système pourrait être déstabilisant pour ceux qui sont à quelques années de la retraite. Donc, une des pistes, c'est de commencer plus tard, donc peut-être, on va prendre un exemple, la classe d'âge 70, là c'est ceux qui ont aujourd'hui 49 ans ou qui vont avoir 49 ans dans les jours à venir. Quel est l'intérêt de repousser comme ça? C'est que ça fait sortir pas mal de personnes de la réforme. Enfin, autre piste de compromis possible, prendre plus que ce qui est prévu aujourd'hui en compte, par exemple, les droits familiaux, l'emploi des seniors, la pénibilité, le cumul emploi-retraite. On parle aussi de garanties pour certains fonctionnaires comme les enseignants. Là, il ne faut pas se tromper, hein, ce sont véritablement des messages envoyés à ce que l'on appelle les syndicats réformistes, c'est-à-dire ceux qui soutiennent la réforme et notamment la CFDT. Vous voyez, il y a clairement une volonté d'ouvrir des pistes de dialogue sans reculer sur la réforme, bien loin de là. Mais la marge pour ce dialogue dépendra en grande partie de l'ampleur de la mobilisation du 5 et surtout de la durée dans le temps de cette mobilisation.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, merci à vous pour cet éclairage. On en reparle avec les grandes voix à 18h30. La communication aussi du chef de l'État et de son Premier ministre sur ce dossier, de tous les ministres, on gardera ça de près avec nos grandes voix.
Et s'il fallait encore un signe qu'il faut bien s'attendre à une très forte mobilisation le 5 décembre, en voilà un de plus. La SNCF a bloqué aujourd'hui toutes les réservations sur les TGV, mais aussi sur les intercités. Impossible de prendre un billet, non seulement pour le 5 décembre, mais aussi pour le 6, pour le 7, pour le 8 décembre, tous les trains s'affichent complets. La SNCF invite les voyageurs à privilégier d'autres modes de transport. Une information ce soir et un rebondissement dans l'enquête sur la disparition non élucidée d'Estelle Mouzin en 2003. Chloé Triomphe, Michel Fourniret est désormais mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort.
Oui, effectivement, Michel Fourniret a été entendu pendant un peu moins de 4 heures cet après-midi devant la juge d'instruction qui avait, la semaine dernière, recueilli des aveux particulièrement embarrassants de la part de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret. Monique Olivier avait en effet fait tomber l'alibi de Michel Fourniret pour ce 9 janvier 2003, qui est le jour où la petite Estelle Mouzin avait disparu à Guermantes, en Seine-et-Marne. Et ce soir-là, Michel Fourniret avait toujours affirmé qu'il était chez lui, à Sarcustine, en Belgique, à 250 km de là, et il avait avancé comme alibi un coup de téléphone passé de son domicile à son fils. Pendant 16 ans, donc, Monique Olivier avait continué à valider cet alibi jusqu'à la semaine dernière. Or, on sait que Estelle Mouzin correspondait au type de proie que Michel Fourniret affectionnait. Il y avait aussi cette histoire de fourgonnette blanche vue à Guermantes qui avait orienté les soupçons vers Michel Fourniret. On sait enfin que Michel Fourniret connaissait cette région parce qu'il avait de la famille. Et puis, bien sûr, il y avait toutes ces déclarations toujours alambiquées, ambiguës de la part de Michel Fourniret. Et puis, dernier indice de soupçon, c'est qu'avant son procès, Michel Fourniret avait demandé à être jugé également pour Estelle Mouzin, mais aussi pour Johanna Parich et Marie-Angèle Domès, deux meurtres de fillettes qu'il a avoués depuis. Donc, reste en suspens cette piste d'Estelle Mouzin. Ce soir, il est donc mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort.
Les précisions en direct de Chloé Triomphe du service police-justice donc sur cette information qui vient à l'instant de nous parvenir.
Cette mise en examen donc pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Merci à vous. Il y a des moments, et on reste en justice ce soir, dans les grands procès d'assises qui marquent à jamais ceux qui y assistent, celui qui s'est joué aujourd'hui même en fait partie.
Oui, nous sommes au procès du viol et du meurtre d'Élodie Kulik en 2002. Procès devant la cour d'assises d'Amiens. C'est le dernier appel au secours de la victime qui a résonné dans la salle d'audience tout à l'heure. Son coup de téléphone aux pompiers, 26 secondes de détresse. C'est sur cet enregistrement que repose l'accusation, car on y distingue la voix de deux hommes, potentiellement celle de l'accusé Lionel Gougelot. Sa diffusion a saisi d'effroi toute la salle.
Oui, c'est une série de hurlements qui glacent le sang. 26 secondes d'horreur en différé. La voix d'Élodie Kulik terrorisée face à ses agresseurs. Deux hommes dont on entend les voix et dont on devine qu'ils ne lui laisseront aucune chance. Sur son banc, Willy Bardon, l'accusé, écoute, immobile, le regard fixe. Face à lui, Jackie Kulik reste de marbre. Ses proches se prennent le visage dans les mains ou se bouchent les oreilles, incapables de supporter l'épreuve. Le papa d'Élodie sort sonné de l'audience.
Il y a une chose qui est certaine. J'ai malheureusement, moi, reconnu la voix de ma fille. Et ce n'est pas la seule voix que j'ai reconnue, je peux vous le dire.
Alors, est-ce Willy Bardon, l'un des hommes? Didier Seban, l'avocat de Jackie Kulik, en est convaincu.
Cet enregistrement terrible, c'est aussi des intonations, une manière de parler que les proches de Willy Bardon, qui n'avaient aucune raison de le mettre en cause, ont tous reconnu. Voilà ce qui va compter.
Seul un expert a identifié l'accusé sur la bande et son travail est remis en cause. Un scientifique cité comme témoin estime qu'il n'y a aucune garantie en matière de reconnaissance vocale. Gabriel Numénil, avocat de Willy Bardon.
C'est le seul domaine dans lequel on nous dit que la science ne peut rien. Et en revanche, éventuellement, des personnes, par leur seule reconnaissance vocale et leur seul cerveau, pourraient obtenir des résultats meilleurs que la science. C'est pas sérieux.
Dans les prochains jours, on fera encore écouter cet enregistrement aux témoins qui ont reconnu Willy Bardon, notamment son ami de toujours, qui est formel.
Lionel Gougelot en ligne des Assises d'Amiens pour Europe 1.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lé. À suivre dans cette édition de 18h quand le géant Amazon n'est plus le bienvenu. Une maire de Normandie s'oppose à son installation sur sa commune.
Et puis notre enquête au cœur du salon du livre jeunesse qui a ouvert aujourd'hui et qui prend désormais une dimension internationale.
Votre grand journal du soir, toute l'info qu'il vous faut, c'est tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 20h. 18h14 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. Le géant Amazon est-il toujours le bienvenu en France? La plateforme Internet, très critiquée pour son optimisation fiscale, se heurte à la résistance d'une élue locale.
Ça se passe en Normandie, près de Caen. Le projet d'un nouvel entrepôt logistique du géant américain, c'est pourtant la promesse là-bas de 150 emplois sur la commune à Mondeville. Mais la maire n'en veut pas. Hélène Burgat l'a expliqué à Jeanne Bergaoui.
Il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies. Sur l'emploi, l'Amazon annonce des créations d'emplois, mais on sait aussi qu'il y a de la destruction d'emplois, donc pour moi, ce n'est pas un argument acceptable. Il y a la question du rapport d'Amazon, comme un certain nombre d'autres sociétés, à l'impôt en France, qui est le levier de la solidarité. Notre modèle repose là-dessus, et on sait que ces sociétés cherchent à échapper à l'impôt. Donc moi, ça me pose aussi question. Il y a aussi, avec une société comme celle-ci, des impacts environnementaux extrêmement importants. Tout ça fait que pour pour ce qui me concerne, je ne souhaite pas la bienvenue à Amazon sur le territoire de Mondeville.
La maire de Mondeville, près de Caen, avec Jeanne Bergaoui.
Une découverte ce soir sur Europe 1, et c'est notre choix, celui de vous emmener dans le temple des livres pour enfants. Le salon du livre jeunesse de Montreuil a ouvert ses portes ce matin même. C'est la 35e édition qui démarre aujourd'hui, et on vous conduit directement aux coulisses.
Avec vous Victor Delande, bonsoir.
Bonsoir.
On va s'y arrêter un instant sur ce salon parce qu'il prend de plus en plus d'ampleur. Il affiche désormais même une dimension internationale.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la littérature jeunesse française est extrêmement riche. Plus de 10 000 ouvrages ont été publiés l'année dernière. Ça va des abécédaires pour les tout-petits jusqu'à la littérature adolescente. À la tête de ce salon depuis 18 ans maintenant, Sylvie Vassallo. Et ces dernières années, elle a vu les regards du monde entier tourner justement vers Montreuil.
La littérature de jeunesse en France est une des plus belles au monde et on s'est rendu compte au fil du temps que de plus en plus d'éditeurs étrangers notamment venaient voir le salon et je pense que ça a donné aussi l'idée d'inviter de grands auteurs internationaux qui sont traduits en France.
Et donc Victor, cette présence étrangère, elle est vraiment visible là sur le salon ?
Oui, à côté des grands éditeurs français, vous trouverez des éditeurs libanais, marocains, suisses, canadiens, polonais, preuve que Montreuil s'impose comme un formidable relais de la scène internationale de la littérature jeunesse. Et les organisateurs du salon ont décidé d'accélérer leur réseau en travaillant avec les ambassades de pays étrangers. Ça se traduit dans les chiffres. L'édition jeunesse grignote des parts chaque année sur la littérature adulte en termes de vente de cessions de droits à l'étranger. Brian Bauer, attaché culturel à l'ambassade américaine en France, apprécie cette dimension internationale.
On est vraiment très content de ce partenariat. Pour nous, c'est une manière de encore une fois montrer le lien entre la France et les États-Unis, d'ouvrir la culture américaine aux jeunes français et aussi de profiter de la marque du salon, de pouvoir travailler ensemble sur la culture américaine et la littérature américaine.
Justement, Victor, vous avez fait des découvertes sur ce salon ?
Oui, énormément, Sébastien. Une immense diversité de mangas. J'ai découvert aussi David Nello, un auteur espagnol qui a écrit un roman pour les 9-10 ans qui, je vous l'assure, redonnera l'envie de lire même aux enfants qui ont du mal à lâcher leur tablette. En très bonne place également, les classiques de la littérature anglo-saxonne comme Roald Dahl, J.K. Rowling, mais aussi Michael Morpurgo qui a écrit notamment Cheval de guerre, porté à l'écran par Steven Spielberg. Pour cet auteur anglais, cette diversité à Montreuil est une immense chance pour les jeunes lecteurs français.
Ils lisent les idées, les histoires des écrivains de tout le monde. Et ça donne aux jeunes français, l'empathie, ils comprennent mieux les vies des autres. C'est si important parce que c'est unique vraiment dans le monde.
Voilà, ils lisent les jeunes français. Notre plongée ce soir au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil qui reste donc ouvert jusqu'à lundi. Enquête signée Victor Delande, merci.
Merci à vous et courez-y donc. S'il y a des choses à apprendre et à apprendre, ça vaut le coup. Merci à vous. C'était votre journal Sébastien Krebs. L'info revient avec vous à 18h.
À tout à l'heure.
Peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, les pneus 4 saisons Hankook s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Anissa, temps très agité demain ?
Oui, avec des pluies, Nathalie, sur presque toute la France demain matin, avec même sur la Normandie, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le Centre, le Limousin. Ces pluies qui pourront prendre un caractère orageux. Le vent d'ouest souffle également. Alors, ça fait quelques jours qu'il souffle sur les côtes, mais là, il va s'engouffrer dans le pays et il souffle sur toute la France demain avec une moyenne de 70 km/h. Sur le Cap Corse, les rafales de vent pourront atteindre les 110 km/h. Il n'y aura finalement, pour vous résumer la carte de France de demain, il n'y aura que sur le pourtour méditerranéen que le temps sera sec avec de belles éclaircies dans l'après-midi et toujours le vent d'ouest. Les températures, Nathalie, elles sont vraiment très douces. On est bien au-dessus des moyennes de saison demain, 4 à 12 degrés le matin, 10 pour Paris. Dans l'après-midi, on aura 10 degrés pour Belfort, 13 à Caen, Saint-Etienne, Strasbourg et Paris, jusqu'à 19 à Bastia. Profitez de ces températures très douces parce qu'à partir de lundi, ça y est, on a un petit coup de froid qui arrive sur la France et il va falloir se couvrir.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Demain matin à Lyon s'ouvre le procès en appel du cardinal Barbarin. Que savait-il des agissements du père, de l'ex-père Bernard Prénat ? Mon invité est une de ses victimes dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Demain s'ouvre en appel le procès du cardinal Barbarin à Lyon. Il a été reconnu coupable en première instance de non-dénonciation d'agression sexuelle. Le cardinal conteste. Vous recevez, Nathalie, ce soir Pierre-Emmanuel Germain-Thil de l'association La Parole Libérée. Il sera demain à l'audience sur le banc des parties civiles.
Bonsoir Pierre-Emmanuel Germain-Thil.
Bonsoir.
Merci d'être ce soir avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'une des victimes du père Bernard Prénat, comme plusieurs dizaines de jeunes scouts de sa paroisse. C'est l'un des fondateurs de cette association La Parole Libérée. Comment abordez-vous demain ce nouveau procès du cardinal Barbarin ?
Écoutez, avec calme, sérénité par rapport à tout ce qui a pu déjà se dire au mois de janvier. Et puis avec un petit peu de curiosité, puisque je n'ai jamais été en cour d'appel, donc je ne sais pas du tout comment ça se déroule. Donc il y a un petit peu de curiosité de voir comment les choses vont se dérouler.
Il y a ce nouveau témoignage donc, qui a été porté à votre association, La Parole Libérée. Mm-hmm. Nouveau témoignage qui vient fragiliser encore la défense du cardinal Barbarin. Pourquoi cet ex-prêtre du diocèse de Lyon n'a-t-il pas parlé avant, et encore moins à la justice, mais à votre association ?
Écoutez, il semblerait, de ce que j'ai compris de son intervention et de son interview du jour notamment, c'est qu'il avait peur en fait de le dire en fait. Il était dans une grande peur, donc il a décidé de franchir le pas et bah écoutez, tant mieux pour lui. Je pense que la parole doit être libre sur tous les sujets, donc tant mieux qu'il l'ait fait.
Et c'est ce à quoi vous travaillez évidemment avec votre association. Le primat des Gaules, le cardinal Barbarin, il semble très combatif. Hein. Sa défense dément en bloc à la fois sur ce témoignage et de toute façon. Dément en bloc, puisqu'il avait fait appel de la décision du mois de mars dernier. Vous craignez que les débats s'orientent sur la prescription des faits, sur la façon dont le délit de non-dénonciation s'inscrit dans le temps ?
Non, je crains pas grand-chose, à vrai dire. Moi, je vais reprendre une date assez importante et que j'ai pu énumérer au procès au mois de janvier, à la suite d'une question de Madame le juge. Mmh. C'est-à-dire qu'avec les nombreuses dates qui ont été annoncées par le cardinal, 2014, 2010, 2005, 2007, il y a eu plein de dates différentes. Moi, j'ai juste rebondi sur la date de 2010, où lui-même dit dans la conférence qu'il fait à la CEF en 2016, qu'en fait, il a reçu le père Prénat en 2010, que ce dernier lui a tout avoué, qu'il lui a avoué après ne pas avoir recommencé sans lui donner de détails, et 3 ans après il l'a promu doyen. Si le cardinal Barbarin en 2010 avait alerté la justice, j'aurais pu me reconstruire plus tôt, c'est-à-dire 6 années plus tôt avant ma plainte, et toutes les victimes prescrites aujourd'hui ou presque pourraient avoir un procès au civil contre leur agresseur. Or ce n'est pas le cas, ce qui fait que pour moi j'estime que ne serait-ce que par rapport à cette date, le cardinal a fauté.
Alors qu'attendez-vous de ce nouveau procès ? Vous espérez donc une condamnation plus lourde, puisque vous nous faites état là de ces dates qui sont effectivement bien plus proches de la date actuelle.
Condamnation plus lourde, ça j'ai envie de dire, c'est la justice qui décide, c'est elle qui a des barèmes. Moi ce qui m'importe, c'est que la condamnation soit confirmée. C'est surtout ça, ce qui m'importe moi et toutes les autres victimes bien sûr.
La condamnation en première instance, c'était 6 mois de prison. Hein. C'était 6 mois de prison avec sursis. Pour être
tout à fait, parce qu'aucun cas ne s'est manifesté depuis 91 ans.
Le procès que vous attendez par-dessus tout, évidemment Pierre-Emmanuel Germain-Thil, j'imagine que c'est celui du père Prénat, il devrait se tenir au civil début 2020, c'est confirmé désormais cette date du 13 au 17 janvier. Il est poursuivi lui pour agression sexuelle sur mineur, il a déjà été condamné en juillet, mais cette fois par le tribunal ecclésiastique. Hein. Il a été retiré de l'état clérical, l'homme n'est plus prêtre. Vous serez des 8 à 10 victimes présumées qui lui feront face ?
Bien sûr. Quand j'ai été porté plainte, il a été arrêté le jour même. Donc bien évidemment, je serai présent à ce procès qui est le procès de ma vie, tout simplement. Ça fait 30 ans que j'attends ça et je serai heureux de pouvoir tourner une page, enfin.
Vous ne redoutez pas ce moment ?
Absolument pas.
Le cardinal Barbarin, il a été condamné en première instance. Pourtant, le pape François a refusé sa démission. Quand l'Église dit vouloir lutter contre les actes pédophiles en son sein, ce ne sont que des mots pour vous ?
Oui, tout à fait. Et je vais rebondir sur des témoignages que j'ai reçus dans les conférences qu'on m'a demandé d'animer par le biais du directeur de cinéma suite à la sortie du film Grâce à Dieu. Mmh. J'ai eu énormément de témoignages de catholiques qui venaient voir le film, qui venaient nous remercier pour ça, pour cette action, pour cette libération de la parole, et qui se sont dit choqués de cette décision du pape. Beaucoup de gens maintenant ont malheureusement perdu la foi dans cette institution. Ils essaient vraiment de se reconcentrer sur une foi qui est personnelle en fait.
Grâce à Dieu,
c'est beaucoup
de
témoignages que j'ai reçus pendant plusieurs semaines dans les différents cinémas dans lesquels je suis passé dans le Rhône.
Grâce à Dieu, ce film de François Ozon. Est-ce que vous, alors, malgré tout, vous arrivez à garder la foi après ces épreuves ?
Absolument pas. J'ai la foi en l'univers, j'ai la foi en l'humain, j'ai la foi dans les animaux, la nature, ce qui nous entoure. Après, la foi dans une institution, quelle qu'elle soit, non. Avec ce que j'ai subi, c'est très compliqué quand même.
Aujourd'hui, vous, avec ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, vous en voulez particulièrement, évidemment, à Prénat, le père Prénat, ex-père Prénat, à Barbarin, à l'Église, au pape.
Bah, je crois que c'est un peu de tout, si vous voulez. Le père Prénat, enfin Bernard Prénat, puisque maintenant il est plus prêtre, ça a été l'agresseur. Ensuite, vous avez la hiérarchie qui a tué, qui a promu même l'ancien prêtre. Et vous avez un pape qui, soi-disant, prône la tolérance zéro et puis qui, au final, n'avance pas et ne fait que des opérations de com. Donc, effectivement, c'est compliqué quand même là, au niveau de, si vous voulez, au niveau de toutes ces personnes-là, il y a un lien qui se fait et de fait, on a une colère vis-à-vis de l'ensemble, en fait.
Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Emmanuel Germain-Thil, avec cette audience demain importante, vous nous l'avez dit, pour vous, et ce rendez-vous encore plus important en janvier, du 13 au 17 janvier, le procès que vous attendez, celui de l'ex-père Bernard Prénat. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Le débat des grandes voix, ils sont dans ce studio, tous les trois, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. On les interroge dans une seconde, notamment sur les agriculteurs à Paris, la déferlante.
Vous pouvez vous aussi interpeller les grandes voix, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres avec vous, Sébastien Krebs.
Mais ce rebondissement ce soir dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en 2003, le tueur en série Michel Fourniret est désormais mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Il a été entendu aujourd'hui. Son alibi avait été fragilisé ces derniers jours par le témoignage de son ex-femme. Des blocages toujours en cours aux portes de Paris. Des dizaines de tracteurs ont envahi depuis ce matin le périphérique pour protester contre les prix bas de la grande distribution. Une délégation est reçue au ministère de l'Agriculture. La SNCF ferme ses réservations TGV, Ouigo et Intercité pour les dates du 5, 6, 7 et 8 décembre. Plus aucun billet en vente pour ces jours-là où la compagnie s'attend à un mouvement de grève reconductible très suivi contre la réforme des retraites. Et puis le foot ce soir, Lyon va tenter d'arracher à Saint-Pétersbourg sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Coup d'envoi 18h55. Ce soir 21h, Lille, déjà éliminée, reçoit l'Ajax d'Amsterdam.
Merci Sébastien. Retour de l'info 19h. Anissa, parapluie pour tout le monde demain.
Oui, voilà, c'est bien résumé. Hein. Effectivement, Nathalie, demain, il pleut sur toute la France, du matin jusqu'au soir, sauf... Alors attention, il y a quand même une partie de la France qui est épargnée et qui va rester au sec. C'est le pourtour méditerranéen demain, avec une journée assez ensoleillée dans l'après-midi. Attention, sur la Normandie, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le Centre et le Limousin, là, les pluies dans l'après-midi pourront prendre un caractère orageux. Et puis attention au vent. Le vent d'ouest va souffler demain sur tout le territoire, sur les côtes et à l'intérieur des terres, avec une moyenne à 60 km/h, 110 km/h, hein, le vent d'ouest sur le Cap Corse demain.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, c'est tous les jours le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Gérard Carrérou.
Et la colère des agriculteurs contre les prix bas, ils ont investi hein, le périphérique parisien depuis ce matin. On en parle dans un petit instant.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix, ça se passe au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec, comme tous les jours jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et toutes vos questions, vos réactions en direct au 39-21 et sur Twitter, hashtag Europe.
Bonsoir à vous les grandes voix, merci Bonsoir. D'être dans Bonsoir, ce studio Bonsoir. Ce soir. Vous les avez vus hein, avec leurs tracteurs, ces agriculteurs, ils étaient très nombreux depuis l'aube, hein, d'abord sur le périphérique parisien. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est obtenir un rendez-vous avec le chef de l'État. Ils sont exsangues, ils n'en peuvent plus, ils sont en colère contre les prix bas. Le gouvernement marche sur des œufs avec le monde agricole. Hein. Oui. Gérard Carrérou.
Oui, et puis ils ont raison, je trouve, les agriculteurs.
C'est approprié. Pardon.
Moi, je dis que je soutiens ces braves paysans. Je les soutiens pour deux raisons. D'abord parce que, comme beaucoup d'entre nous, je suis un petit-fils de paysan et on sait ce qu'ils ont apporté, effectivement, et qu'ils continuent d'apporter à notre pays.
Hein. De l'Aveyron.
Hein. On mange, c'est oui, ça. De l'Aveyron, oui. Pourquoi pas le dire.
Au contraire, on les salue, d'ailleurs.
Donc, aujourd'hui, ils sont d'abord dévalués, déconsidérés socialement, dans notre société. Et donc, dans leur lutte, je dirais même peut-être avant l'argent, avant les revenus, les faibles revenus, il y a la reconnaissance sociale. Avant, les paysans étaient estimés, on disait « ah oui, les paysans, ça compte », etc. Aujourd'hui, les paysans, pas tout le monde, mais beaucoup de gens s'en fichent, on les passe un petit peu par pertes et profits. Donc, ils se rebellent contre ça. Et deuxièmement, effectivement, leurs revenus sont, quand ils arrivent à se faire, certains d'entre eux, un demi-SMIC par mois, et quand ils atteignent, c'est le nirvana quand ils ont le SMIC, franchement, pour des gars qui se lèvent le matin tôt, qui travaillent toute la journée, qui ne prennent pas de vacances, etc., dont les femmes bossent autant que les hommes, je trouve que c'est pas bien.
Ils sont presque 20% à ne pas pouvoir vivre de leur métier. Ils veulent des mesures concrètes et tangibles. C'est une crise existentielle. Catherine Ney, la crise des agriculteurs.
Oui, c'est un peu une crise existentielle parce qu'ils recherchent aussi de la considération. Mmh. Ils ont quand même comme pour mission de nourrir la population. Et voilà que nourrir la population, aujourd'hui, on les suspecte d'empoisonner d'empoisonner les gens avec les pesticides, et de faire une agriculture qui n'est plus, qui est nuisible au pays. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très, très dur. Et donc, c'est quand même une population où il y a un suicide par semaine, au moins. Et donc, quand c'est les postes où les France Télécom ont dit un suicide, et il y en a plein les journaux, là, c'est passé, on en parle à peine. Il y a juste le journal local qui note une chose. Et donc, on a une vision, il y a beau y avoir une émission « L'amour est dans le pré » pour inciter les femmes à venir épouser des agriculteurs. Et c'est vrai que quand on voit ces émissions, on a l'impression que la vie est facile. Et puis on s'aperçoit que pas du tout. Et que la plupart, même des gens qui passaient dans l'émission, ont abandonné parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre de leur métier. Donc c'est quelque chose... On en a retenu des agriculteurs. Simplement, on les célèbre au moment du salon de l'agriculture, où tout le monde vient. Et après, on les oublie. Et eux ne peuvent toujours pas vivre...
Du fruit de leur travail.
Exactement. Et c'est intéressant ce que vous dites, Catherine, sur on les célèbre au Salon de l'agriculture Charles Villeneuve. On les a beaucoup célébrés, les agriculteurs, nos agriculteurs. On se souvient de Jacques Chirac, qui véritablement était en amitié avec beaucoup d'entre eux, qui était comme ça dans une proximité, dans une complicité. Les temps ont changé. Ils reprochent aujourd'hui, par exemple, entre autres, à Emmanuel Macron d'avoir décidé d'interdire l'utilisation du glyphosate d'ici à 2020. Et voilà une contrainte supplémentaire pour ces agriculteurs. Et voilà... une rencontre, là, en cours au ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ?
Mais d'abord, le président de la République, en octobre de 2018, a été le générateur d'une loi qui s'appelle la loi Egalim. Cette loi Egalim devait pousser les producteurs, la grande distribution, à mieux rémunérer les producteurs de ces produits, c'est-à-dire les agriculteurs. En gros, devait leur revenir le tiers, si vous voulez, de ce que rapportait un produit agricole. Ça ne s'est pas fait, au contraire, c'est la grande distribution qui ramasse le max et les agriculteurs qui ont le plus petit lot.
Mais alors pourquoi on leur a tourné de l'eau ?
Alors ensuite, on leur a dit, écoutez, on vous a poussé finalement à la production extensive, à élargir, à agrandir vos terrains, au remembrement, à la destruction des haies. Ça a quelque chose à voir avec les inondations, mais enfin c'est un autre sujet, le cadastre, etc. Et puis là, on vous dit, finalement, le processus de production de vos produits, on n'en veut plus. Ce n'est pas la peine parce qu'avec les engrais, avec les pesticides, avec la suppression annoncée d'ici 3 ans du glyphosate, sur lequel, d'ailleurs, il n'y a pas de preuve absolue, avec le fait que les médias, maintenant aussi, plus les écologistes, plus... finalement, un certain nombre de gens, il y a un malaise existentiel qui s'est installé parce qu'on les considère quasiment comme des... Ils vous disent, d'ailleurs, quand vous dialoguez justement sur leur tracteur. Allez, tout à l'heure, à la porte d'Auteuil, il y avait des tracteurs. Moi, j'habite pas loin, donc j'ai été un peu dialogué. Ils me disent, on est des assassins. Vous nous considérez comme des assassins. J'étais frappé, moi, j'ai dit non, quand même pas, on va pas jusque-là. Donc, il y a au malaise économique, il y a le malaise existentiel dont on parlait.
Il y a des associations qui, franchement, exagèrent. Sous prétexte de bonne cause, la cause animale, elles poussent. On a l'impression qu'effectivement, ce sont des criminels, maintenant, les agriculteurs.
Oui, parce que c'est leur place dans la société qui se joue dans cette affaire.
Et eux, ils dénoncent cet agribashing ambiant, et notamment sur les pesticides, on l'a dit. On va revenir dans un petit instant, les grandes voix. On reste ensemble, évidemment, jusqu'à 19h.
Et vous pouvez réagir en direct. N'hésitez pas à venir poser toutes vos questions aux grandes voix 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous, Nathalie Lévy, ce soir Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, et toutes vos réactions en direct au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nos militaires tués hier au Mali, 13 militaires français, on l'a dit hier soir dans ce studio. Je voudrais qu'on entende cette petite phrase, l'ex-président François Hollande qui a insisté, interrogé aujourd'hui, qui a insisté sur la nécessité de cette opération Barkhane. Écoutons.
Comme président de la République, j'ai pris la décision d'engager nos forces militaires au Mali, c'était en janvier 2013. Je mesure chaque jour la responsabilité que j'ai prise. Parce que chaque fois qu'il y a un drame, une tragédie, je sais que c'est à la suite de la décision que j'ai prise. Mais cette responsabilité, je l'assume aujourd'hui encore.
Il assume, François Hollande, il assume parce que la France a un rôle à jouer pour la sécurité du monde et ce rôle, les Français doivent en être conscients et fiers. Il faut rester, il faut assumer, il faut rester droit dans ses bottes sur ce terrain-là. Charles Villeneuve.
Mais depuis que la France a été violemment attaquée sur son territoire en 2014, 2015, 2016, les Français, je pense, ont pris conscience du fait que les opérations extérieures ne le sont pas véritablement et que ce qui se passe, si vous voulez, au Sahel, la guerre, les guerres du Sahel, on devrait dire les guerres parce qu'il y en a plusieurs qui se juxtaposent, finalement est nécessairement une sorte de défense, si vous voulez. C'est en quelque sorte l'avant-garde de ce qui peut arriver en France sur le territoire et aussi sur l'Europe. Et le problème, de toute façon, parce que la France ne peut pas pacifier à elle seule l'Afrique, il est bien évident que devraient se mêler à cette pacification, au moins sur l'aide financière, les États européens. Or, les États européens, indéniablement, ces pays-là, à commencer par l'Allemagne, ne croient qu'à une seule chose, à la protection de l'OTAN et des États-Unis. Et ne croient pas du tout, si vous voulez, à un effort de défense européenne, et notamment sur le plan financier. Or, la France n'a pas tout à fait les moyens, il faut le reconnaître, de pacifier, si vous voulez, l'Afrique, pour qu'ensuite les entreprises chinoises, japonaises, allemandes, israéliennes, américaines, idem, puissent tranquillement y venir, se faire attribuer des marchés. Ouais. C'est ça aussi tout le problème qui se pose, c'est un problème difficile. Il n'empêche que j'écoutais Alexis Corbière ce matin sur une télévision, et c'est vrai qu'il dit qu'il doit y avoir un débat, moi je suis assez d'accord avec ça, ouais, qu'il y ait un débat tout à fait démocratique, et que Peut-être, parce que partir tout de suite du Sahel, ce serait catastrophique. Ce serait un message de victoire aux Katibas islamistes, toutes celles qui viennent du Nord et qui veulent contrôler les quatre principales villes du Sahel. Bon, il est bien évident que partir complètement du Sahel, c'est impensable à l'heure actuelle. Mais en revanche, il est impératif d'établir une stratégie progressive.
Assurer la transition, Gérard Carrérou. La transition, sécuriser, mais c'est ce qu'on fait déjà.
Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il faut se préparer à une guerre longue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est irresponsable de dire et puis on va retirer dans un an ou deux, on va retirer. C'est peut-être une guerre qui va durer.
Pardon de te couper, Gérard, mais le chef d'état-major des armées l'a dit, entre 5, 10, 15 ans.
Voilà. On a effectivement devant nous une guerre longue. Alors, à ça, je veux dire deux choses. Un, il y a un déficit de pédagogie politique. Parce qu'on ne le dit pas assez aux Français. On leur parle du Mali, au fond, quand il y a un gros drame. Ou deux types qui sont descendre. Ah, bon. Et il faut le dire, parce qu'il faut leur faire comprendre. La pédagogie, c'est de faire comprendre que la guerre contre le terrorisme en France, avec toutes les mesures qu'on a mises, et la guerre contre le terrorisme là-bas, c'est la même guerre, les mêmes Français qui se battent là-bas et ici. Et si les gens ne le comprennent pas, ils vont avoir à un moment donné, ils vont dire « Oh, il y en a marre de cette guerre, et puis il y en a marre d'avoir des pauvres Français qui se font descendre ». Donc, premièrement, la pédagogie. Deuxièmement, par contre, il y a une chose qu'on ne pourra jamais obtenir, je ne crois pas, malheureusement, c'est d'avoir ce que les Américains appellent les « boots on the ground », c'est-à-dire les soldats sur le terrain. Alors, nos amis européens, ils sont bien gentils, ils mettent un peu d'argent, ils donnent un peu de matériel. Les Américains
ils
pourraient en donner beaucoup plus, mais on n'obtiendra jamais d'eux d'avoir quelques soldats qui se battent sur le terrain pour une raison simple. Ils considèrent, eux, que l'héritage colonial de l'ancienne Afrique occidentale française, etc., que ces pays, c'est l'héritage colonial français, donc que c'est le boulot des Français.
Ah oui, c'est ça.
Et c'est le drame.
Et oui, Catherine, c'est une vraie question de politique nationale. C'est une question qu'il va falloir trancher, pas à chaque drame, mais véritablement. En amont.
Oui, mais surtout le peu d'appétit des pays européens pour venir aider la France, c'est d'abord que dans la plus de la moitié des pays européens n'a jamais eu, il n'y a pas eu d'attentat djihadiste. Donc, ils ne se sentent pas concernés. Ça. Et aucun de leurs ressortissants n'est parti faire le djihad. Vous voyez. Mais en revanche, la plupart des pays européens ont suivi l'aventure américaine à la fois et en Irak et en Afghanistan, où là, ils ont eu des morts, tous les pays. Et eux, comment, aujourd'hui, disent comment justifier de dire on va aider les Français alors qu'on n'a pas eu de mort et pas d'attentat. Ça, pour eux, c'est impossible. Aujourd'hui, et c'est pour ça, alors, l'Estonie a envoyé 50 soldats, ce qui est courageux, parce que quand même, vous voyez, mais c'est pas plus. Bon, alors, les Allemands sont quand même présents à Gao. Il y a un centre où il y a 1000 Allemands qui font des patrouilles dans Gao, mais qui ne vont pas au combat. Mais ils font de la logistique. Quand il y a des opérations françaises sur le terrain, et que c'est dans le désert, et que chaque soldat boit entre 20 et 30 litres d'eau par jour, qui amène cette eau ? Ce sont les Allemands avec leurs avions. Ouais. C'est quand même, il y a cette aide-là. Il y a aussi les...
Non, mais tu as raison, mais c'est pas assez.
C'est pas assez, mais voilà ce qu'ils font.
Je m'excuse, mais les Allemands ont eu quand même une série d'attentats de djihadistes sur leur terrain.
C'est que la question... Et la question, c'est quand même de dire que le terrorisme, normalement, c'est international.
Ils ont eu des attentats.
Alors, on s'entend plus. On se retrouve dans une seconde, les grandes voix.
Le débat des grandes voix, vous pouvez y participer. Chaque jour, c'est jusqu'à 19h sur Europe 1. Pour interpeller les grandes voix, ça se passe au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix comme chaque soir jusqu'à 19h. Ce soir autour de la table, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Nathalie.
Avec nos auditeurs également au 39-21. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir la Grande Voix.
Bienvenue sur Europe 1. On parlait de l'Europe, évidemment, et juste avant du désengagement, en quelque sorte, de l'Europe, de cette forme de transparence au Mali. On se posait la question, où sont-ils? Alors que le terrorisme, normalement, c'est international, ça concerne tout le monde. Quelle est votre opinion, vous? Ou votre question?
Alors, mon opinion, je vais déjà présenter mes condoléances aux familles. C'est dramatique, quoi. Voilà. Mon opinion, c'est qu'on a peut-être fait une boulette en 2013. On est parti là-bas pour des intérêts qui, à mon avis, sont autres. Maintenant, on est sur place. Il faut assumer. Je pense qu'il faudrait tenter de se poser autour d'une table entre Européens. Et effectivement, tenter d'activer cette armée qu'on aimerait européenne, quoi.
Ouais. Retrouver cette unité au moins sur ces questions terroristes, parce que de terrorisme.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire, monsieur, là, sur le 2013? Vous reprochez quoi, 2013? Vous dites qu'il y avait d'autres motifs.
Ouais, je pense qu'on est parti pour certains motifs économiques là-bas.
C'est-à-dire l'uranium?
C'est mon avis personnel, je pense à l'uranium, entre autres.
C'est beaucoup se pose cette question, Charles Villeneuve, qui nous connaissez bien le dossier.
Il y avait quand même un objectif qui était pressant, qu'il fallait à tout prix stopper, c'était l'arrivée des Katibas islamistes du Nord sur la ville de Bamako. Oui. Bamako est un nœud routier en Afrique, c'est-à-dire que si vous passez Bamako, vous entrez directement au Niger, au Burkina Faso et au sud de la Côte d'Ivoire. À partir de là, pour extraire ces Katibas islamistes, si vous voulez, de ces pays-là, c'est la contamination quasi directe. Cet objectif était essentiellement militaire, d'abord. Alors, l'uranium, ça ne se passe pas de ce côté-là. Ça se passe plus, si vous voulez, du côté est, nord-est, pas loin, d'ailleurs, de la Libye, du Niger, du Nigeria, etc. Ça, c'est encore une autre affaire. Bon, mais je ne pense pas que dans un premier temps, en tout cas, maintenant je conçois très bien et je vois très bien, si vous voulez, votre allusion, l'affaire de la guerre du Sahel n'est pas essentiellement pour des objectifs économiques. Au contraire, ça nous coûte beaucoup.
Beaucoup, ça nous coûte entre 600 et 700 millions d'euros par an.
C'est pour ça qu'on a besoin des aides européennes.
Exactement, plus de 3 milliards depuis 7 ans. Merci beaucoup Nicolas de votre appel. On va conclure là-dessus, quand même sur la question de l'absence de l'Europe, ou même au-delà, la question évidemment de ce qu'il faut faire demain sur cette présence. On l'a dit, il faut une transition au minimum, si on doit quitter demain, dans 10 ans, dans 15 ans, le Mali. Mais globalement, voilà, il y a une question terroriste aujourd'hui internationale et donc on n'a pas le choix.
Il faut avoir les nerfs pour tenir 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La guerre d'Afghanistan, les Américains l'ont faite pendant 20 ans.
Le problème n'est pas réglé.
Dans le cadre de la guerre du Sahel, il y a aussi un autre, si vous voulez, un autre front qui est très important, c'est les immigrants, les migrations. Il faut savoir que les populations subissent des exactions, des massacres si vous voulez, interethniques aussi, oui, dans cette affaire, qui sont très très graves. Et ces populations fuient et se réfugient dans un certain nombre de pays. Ces katibas islamistes sont des trafiquants de drogue et d'êtres humains. Ce sont eux qui font ce commerce des êtres humains pour les pousser à venir en Europe. Ah oui. Auquel cas, ils les rackettent.
Ouais. Donc un État islamique au milieu de l'Afrique qui serait 3 ou 4 fois aussi plus grand que le califat de Bagdad, de l'Irak et de la Syrie, eh bien ça voudrait dire des vagues de migrants à terme venant vers la France, évidemment, d'abord.
Catherine, on va terminer. Je précise juste quand même qu'il y a la MINUSMA, parce qu'on ne l'a pas dit, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui est quand même présente sur place, forte de 11 000 hommes. Donc on parle de l'Europe, mais il y a malgré tout ces 11 000 hommes qui sont quand même engagés.
Et qui font de l'assistance technique, notamment pour apporter de la nourriture aux militaires qui travaillent dans des conditions épouvantables en désert. Mais le problème, c'est que la force Barkhane obtient énormément de succès avec la force Sabre, qui sont celles des forces spéciales, quelques centaines d'hommes qui sont reconnus dans le monde entier comme étant très, très, très pointus et très de grands professionnels. Mais le problème, c'est qu'on nettoie un territoire qui fait 5 millions de kilomètres carrés. Alors, il y a une poche que l'on nettoie. Mais comme il y a une incurie de l'État malien qui, dès que c'est nettoyé, est incapable d'apporter avec des professeurs, organiser la vie normale dans un... les terroristes reviennent. Alors, c'est un peu Sisyphe, l'opération Barkhane.
L'État malien, c'est le maillon le plus faible. Ouais.
Merci beaucoup, les grandes voix, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Merci à vous. On se retrouve demain, 18h30, 19h.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Le journal de Sébastien Krebs à la une ce soir, la mise en examen de Michel Fourniret pour enlèvement et séquestration suivie de mort sur la disparition d'Estelle Mouzin. C'était en 2003.
Et vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1.
19h10, la politique, l'invité politique, Pierre Moscovici, le commissaire européen. 19h20, on a un temps d'avance, on est demain en France, demain dans le monde. 19h30, et si on vieillissait bien? Et puis 19h45, oh là 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 là, ce phénomène de l'humour, c'est elle.
C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin.
Et les moulures au plafond aussi. Et on vous dit tout sur Inès Reg.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours sur Europe 1. Et c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Très belle soirée. Il est 19h.
Situation qui s'est dégradée très lentement. Quand les moteurs et les frigos datent de 1953, on arrive à une situation qui n'est plus tenable.
C'est un macabre scandale à l'université Paris Descartes. Les coordonnées à la science étaient conservées dans des conditions indignes. Ce soir, le centre de Don fait l'objet d'une fermeture administrative.
Rebondissement dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. Le tueur en série Michel Fourniret n'avait plus d'alibi. Il est désormais mis en examen ce soir dans ce dossier.
Dans l'actualité aussi ce soir, des blocages toujours en cours sur les Champs-Élysées et sur le périphérique parisien. Mouvement des agriculteurs, des dizaines de tracteurs ont afflué vers Paris. On fera le point en direct. Et puis, la nouvelle présidente de la Commission européenne au micro d'Europe 1, Isabelle Horry l'a rencontrée. Ursula von der Leyen nous confie ses priorités avant de prendre ses fonctions dimanche.
Anissa, la météo?
Journée très humide demain avec de la pluie pour presque tout le monde. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Le tueur en série Michel Fourniret sera-t-il jugé pour une 9e victime, déjà condamné 2 fois à la perpétuité pour le meurtre de 8 jeunes femmes ou adolescentes? Il est désormais mis en examen dans un dossier qui, après 16 ans d'enquête, n'a jamais été élucidé. La disparition d'Estelle Mouzin en 2003 à Guermantes. Chloé Triomphe, Fourniret n'avait plus d'alibi. C'est ce qui relance tout ce dossier.
Oui, depuis la semaine dernière et le revirement de son ex-épouse Monique Olivier, Michel Fourniret n'a effectivement plus d'alibi pour le soir de la disparition d'Estelle. Monique Olivier a avoué à la juge que ce soir-là, son mari n'était pas chez lui et que le coup de téléphone qui lui servait d'alibi, eh bien, c'est elle qui l'avait passé à sa demande. Alors cet aveu, passé après plusieurs mois d'introspection et de mise en confiance avec la juge parisienne, a donc permis à celle-ci de convoquer à son tour Michel Fourniret. On ne sait pas s'il a fait des aveux durant cet interrogatoire de plusieurs heures cet après-midi, mais ce qui est certain, c'est que les soupçons n'ont jamais vraiment disparu. Michel Fourniret s'est montré ambigu à plusieurs reprises sur le cas d'Estelle. À une époque, il a même demandé à être jugé pour ce dossier et depuis quelques années, eh bien, le sujet le travaille suffisamment pour en parler en creux, de manière non explicite aux différents magistrats. Il faut savoir que c'est la 8e juge chargée de ce dossier. Pour autant, rien n'est acquis selon ses avocats qui affirment que si l'homme de 77 ans ne nie pas, eh bien il dit aussi n'avoir plus souvenir de rien.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et après l'ogre des Ardennes, une toute autre affaire à présent, mais qui fait là aussi froid dans le dos, ce scandale qui touche la prestigieuse faculté de médecine de l'université Paris-Descartes.
Hein. Les milliers de corps donnés à la science pour permettre aux étudiants de s'exercer étaient conservés dans des conditions indignes. Révélation de nos confrères de l'Express qui déclenche ce soir une fermeture administrative du centre de dons. Jean-Jacques Héry, qu'est-ce qui a été pointé ?
Eh bien, l'enquête de nos confrères détaille des faits qui apparaissent complètement invraisemblables. Au cinquième étage de la faculté de médecine René Descartes, il y a encore quelques années, on pouvait ainsi trouver des cadavres amoncelés, nus, pêle-mêle sur des brancards, dans un désordre indescriptible, explique le magazine. Une situation qui aurait duré plusieurs dizaines d'années aurait même empiré à partir de 2013. Les chambres froides où sont conservés les cadavres fonctionnent mal, les souris parviennent à y rentrer, ça pue, les cadavres pourrissent, se plaignent les employés. Certains corps sont si abîmés qu'ils ne peuvent même plus être disséqués. Le nouveau directeur du CTC, le centre de don des corps, le professeur Richard Douard, alerte alors en 2016 le président de l'université, sans réaction immédiate. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il me confirme tous les faits évoqués dans l'article.
C'est une situation qui s'est dégradée très lentement dans des locaux datant de 1953 qui n'ont pas été refaits depuis. Quand les moteurs et les frigos datent de 1953, on arrive à une situation qui n'est plus tenable.
Face à ce mélange d'attentisme et de manque de moyens, Richard Douard va finir par démissionner en 2017. Aujourd'hui, la situation semble s'être un peu améliorée. Les chambres froides fonctionnent mieux après des travaux de réfection. Des grands travaux doivent débuter au premier trimestre 2020, une date jugée beaucoup trop tardive selon tous les connaisseurs du dossier.
Les précisions pour Europe 1 de Jean-Jacques Héry.
Des milliers de tracteurs ont afflué vers Paris aujourd'hui depuis l'aube et les blocages continuent. Alors attention, hein, circulation encore très compliquée aux abords de la capitale.
Oui, avec une délégation de manifestants qui est reçue actuellement au ministère de l'Agriculture en attendant les agriculteurs venus protester notamment contre les prix bas de la grande distribution poursuivent un certain nombre de blocages avec leurs tracteurs, notamment sur les Champs-Élysées où vous vous trouvez, Hélène Terzian.
Exactement, d'ailleurs la circulation est ici perturbée aux abords de la célèbre brasserie du Fouquet's, donc au niveau du croisement de l'avenue des Champs-Élysées et de l'avenue Georges V. C'est là qu'une centaine d'agriculteurs entourés des forces de l'ordre attendent la venue de leurs représentants reçus au ministère de l'Agriculture. Le trafic est également très dense sur le périphérique. Pour les automobilistes qui nous écoutent, notez quelques points de blocage, par exemple au niveau du périphérique extérieur entre porte Danière et porte Maillot, donc sur environ 2 km, mais aussi sur le périphérique intérieur entre Porte de la Muette et Porte Dauphine, portion de moins d'un kilomètre 5. C'est là que depuis ce matin, 80 agriculteurs bloquent toujours la voie avec leurs tracteurs.
Hélène Terzian en direct sur les Champs-Élysées pour Europe 1. L'actualité politique, c'est aussi le dossier des retraites avec un calendrier précisé aujourd'hui par le Premier ministre. Fin de la concertation annoncée pour le 9 ou le 10 décembre. Puis annonce précise du projet du gouvernement dans les jours qui suivront, donc après la journée de mobilisation du 5 décembre, mobilisation très forte, hein, attendue notamment à la SNCF, où toutes les réservations de billets sont désormais bloquées aux dates du 5 décembre, mais pas seulement, c'est aussi le cas pour le 6, le 7 et le 8 décembre. On saura ce soir qui sera le candidat officiellement investi par la droite au municipal à Marseille. La commission d'investiture des Républicains se réunit en ce moment en pleine guerre interne pour succéder à Jean-Claude Gaudin d'un côté, Martine Vassal, de l'autre Bruno Gilles. Tous les deux ont annoncé qu'ils se présenteraient quoi qu'il arrive. Enfin, une date, lundi après-midi, hommage national aux Invalides pour les 13 militaires français tués en opération au Mali. La ministre des Armées, Florence Parly, est arrivée tout à l'heure sur leur base de Gao, où une première cérémonie aura lieu avant le rapatriement des dépouilles à Paris.
Cette fois, la nouvelle Commission européenne est au complet et elle prendra ses fonctions ce dimanche.
Avec 26 commissaires, dont le français Thierry Breton, dont 12 femmes aussi, dont une à sa tête, bien sûr, l'allemande Ursula von der Leyen, qui a passé la toute dernière étape aujourd'hui. Vote d'investiture validé au Parlement européen. Isabelle Horry, vous êtes à Strasbourg et vous avez pu rencontrer tout à l'heure la nouvelle présidente. Quelles seront ses priorités ?
Eh bien, la première, vraiment, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que c'est au niveau européen que s'élaborent les grandes législations climat, que l'on décline ensuite pays par pays. Ursula von der Leyen veut présenter avant Noël son Green Deal, son pacte vert pour le climat. Elle veut une forte réduction des émissions de CO2 avec l'objectif d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Deuxième grand chantier, faire de l'Union européenne un géant de l'économie numérique, lui permettre de peser dans le monde de demain face à la Chine et aux États-Unis. Et pour cela, m'a-t-elle dit, elle compte beaucoup sur le commissaire français Thierry Breton.
Thierry Breton est exceptionnel parce qu'il a beaucoup d'expérience. Il a été ministre avec Jacques Chirac, ministre de l'économie. Mais il connaît le secteur privé très très bien et il connaît le numérique. Cette combinaison est exceptionnelle.
Enfin, dernier dossier que la nouvelle présidente compte bien empoigner rapidement, c'est la gestion de la migration. Les divisions entre pays européens bloquent tout progrès depuis bientôt 5 ans. Elle espère que le changement de Commission européenne va permettre de prendre un nouveau départ.
Merci à vous Isabelle Horry. Et juste après ce journal, le commissaire français sortant Pierre Moscovici, il est arrivé dans nos studios, il est l'invité politique d'Aurélie Herbemont.
Un mot de foot pour terminer avec l'Olympique Lyonnais qui tente d'arracher ce soir à Saint-Pétersbourg sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. On joue depuis 13 minutes à Saint-Pétersbourg, toujours 0-0 à 21h ce soir. Lille, qui est déjà éliminée, reçoit l'Ajax d'Amsterdam.
Et Sébastien Krebs, vous revenez-vous à 19h30. Merci à vous. C'est la météo avec de la pluie et même beaucoup de pluie demain, Anissa.
Oui, avec une exception quand même. Il pleut sur tout le pays, mais une exception. Seul le littoral méditerranéen sera au sec demain avec de belles éclaircies dans l'après-midi. Partout ailleurs, sur l'ensemble du pays, la journée de demain est placée sous le signe des averses. Des averses qui prendront un caractère orageux dans l'après-midi, notamment sur le Limousin, le centre, la Bourgogne, la Champagne, la Normandie. Des orages très localisés. Sur les côtes de la Manche, le littoral Atlantique et sur une grande partie de la France, le vent d'ouest va souffler demain en moyenne à 70 km/h, sauf sur le Cap Corse où là le vent souffle bien plus fort, jusqu'à 100 km/h. Et attention Nathalie, le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange inondation ce soir par Météo France. Les températures elles seront douces demain, 4 à 12 degrés le matin. Il fera très doux demain après-midi, 18 à Nîmes, 17 à Marseille, 15 à Bordeaux et 13 à Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
C'est l'heure de l'interview politique sur Europe 1 chaque soir à 19h10. Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue à vous, votre invité ce soir.
Pierre Moscovici, commissaire européen jusqu'à dimanche. La nouvelle présidente Ursula von der Leyen promet un nouveau départ pour l'Europe. On en parle avec lui.
Merci à vous.
Votre interview politique, c'est dans un instant sur Europe 1 avec Aurélie Herbemont.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique.
Avec Aurélie Herbemont et son invité ce soir, votre invité Aurélie Herbemont dans ce studio, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douane. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre Moscovici.
Bonsoir.
Votre mandat de commissaire européen prend fin dimanche pour de bon. Quel est le plus gros défi pour la nouvelle commission qui a été officiellement investie aujourd'hui ?
Je pense que le plus gros défi, c'est d'abord d'impulser ce qu'on appelle un New Deal climatique. C'est de faire en sorte de préparer l'Union européenne à être la première économie neutre du point de vue carbone d'ici à 2050. Et pour ça, il faut aussi être capable de mettre en place une fiscalité de l'énergie. Mais ce n'est pas le seul défi. Je pense qu'il y a aussi un défi économique, car la croissance économique est toujours là, mais elle reste assez plate. Et pendant les années qui viennent, il y a plein de risques qui se multiplient à l'échelle mondiale. Tensions commerciales d'abord. Et il faut être prêt à répliquer, prêt aussi à changer, je crois, les règles budgétaires européennes dont j'ai été en charge. Et puis, il y a un grand défi, qui est le défi démocratique. C'est qu'il faut qu'on parle d'Europe, il faut qu'on arrive à toucher le citoyen, il faut se rapprocher du citoyen, il faut que les institutions européennes soient des institutions lisibles, contrôlées, contrôlables. Et donc, voilà, ces trois défis pour moi, c'est l'économie, le climat, la démocratie.
Démocratie, c'est important de faire réaimer l'Europe par les citoyens, alors qu'on le voit, des mouvements populistes sont très puissants. On l'a vu aux dernières élections européennes.
Ouais, enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Aux dernières élections européennes, tout le monde annonçait une je ne sais quelle vague d'extrême droite et elle ne s'est pas passée. Il y a trop d'extrême droite en Europe. Il y a à peu près 20-25% des parlementaires qui sont d'extrême droite. Mais il y a une majorité écrasante, c'est d'ailleurs celle qui aujourd'hui a investi la prochaine commission, 465 voix contre 157. Et donc, le populisme est un danger. On le voit poindre, on le voit progresser par exemple en Espagne. Il est menaçant en Italie, menaçant en France. Ne faisons pas comme si nous étions épargnés par cela. Mais l'Europe est toujours forte. Elle est forte de ses institutions, elle est forte de ses convictions. Mais pour ça, il faut que les pro-européens aient un agenda sûrement plus offensif qu'ils l'ont aujourd'hui. Il faut arrêter de subir. Il ne faut pas avoir l'Europe honteuse, l'Europe timide. Il faut sortir le drapeau de la poche et puis il faut aussi être capable de répondre aux aspirations des citoyens. Et je le répète, le changement climatique, nous sommes le continent de la lutte contre le changement climatique. L'économie, nous devons être la première économie du monde. Et pour ça, il faut effectivement aller vers une économie qui soit plus numérique. Et il faut aussi être capable d'avoir une fiscalité, notamment une lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. J'ai beaucoup fait pour ça.
Ça reste un des sujets prégnants pour la Commission européenne.
Moi, je suis très fier qu'il y ait eu, pendant ces 5 années, 20 directives qui aient été votées en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je pense à la fin du secret bancaire, je pense à l'échange automatique sur ce qu'on appelle les rulings, les rescrits fiscaux, je pense à une liste noire de paradis fiscaux. Tout ça, ça n'existait pas avant. Mais il ne faut pas que ça s'interrompe, il faut continuer. Il ne faut jamais arrêter de pédaler.
Vous évoquiez tout à l'heure aussi des règles budgétaires. Est-ce qu'il faut mettre sur la table la question de la règle des 3%? Alors, je rappelle pour nos auditeurs, un pays membre de la zone euro ne doit pas avoir un déficit supérieur à 3% de son PIB. Emmanuel Macron l'a dit, cette règle des 3%, ça appartient au passé. Est-ce qu'il faut changer ça pour donner plus de latitude aux États européens?
Je crois qu'il ne faut pas poser la question exactement comme ça. Et ce n'est pas comme ça qu'Emmanuel Macron l'a posé. 3%, aujourd'hui, c'est un plafond dont tout le monde est loin. La France est à 2,2%, la moyenne de la zone euro est à 1%, il n'y a plus un État membre qui soit à 3%. La vraie contrainte, le vrai objectif, ce n'est pas les déficits, parce qu'en effet, on n'en parle plus, d'une certaine façon, tout le monde les réduit. C'est la réduction de la dette publique. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument se
concentrer.
Qui ne réduit pas assez vite, pas partout. Enfin, disons que dans l'Union européenne, elle est passée de quelque 95 à 85%. Pendant ce mandat, il y a des pays comme la France où elle stagne autour de 100%, c'est trop. Il y a des pays comme l'Italie où elle monte jusqu'à près de 140%, entre 135 et 140%, c'est beaucoup trop. Et donc, il est important qu'il y ait des règles qui permettent de mieux contrôler la dette publique. Donc, sortons de la complexité des règles actuelles, concentrons-nous sur la dette publique. Pour ce qui est des 3%, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Il n'y aura plus, pendant un temps, de pays dans ce qu'on appelle la procédure de déficit excessif, et je m'en réjouis. J'ai fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Les États membres ont fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Donc, il y avait autre chose que disait le président de la République. Deux choses. D'abord, qu'il fallait un budget de l'Union européenne qui soit plus dynamique qu'il est aujourd'hui. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB. C'est sûrement trop peu. Mais attention, il faut être prêt à en payer le prix pour moderniser notre économie, pour lutter contre les formes d'immigration qui sont des immigrations clandestines, pour assurer notre sécurité, pour promouvoir la jeunesse, pour développer Erasmus, multiplier par deux les crédits. Et il ajoutait qu'il faut aussi investir davantage. Et l'investissement, c'est dans le budget et hors du budget. Ce que la commission Juncker a fait, c'est un plan d'investissement de 500 milliards d'euros, 75 milliards d'euros pour la France, supplémentaire, qui a contribué à la croissance. Il faut poursuivre
dans cette voie. Parlons un petit peu de la situation française. La France est en plein débat sur les retraites. Vos amis socialistes, vous êtes toujours membre du Parti Socialiste ?
Je suis membre sentimental du Parti Socialiste. Je ne suis pas sûr d'être tout à fait à jour de mes cotisations. Ah. Et j'aimerais que le Parti Socialiste soit un peu différent. Moi, je pense que je reste un homme de gauche, au sens où je considère que le combat contre les inégalités, pour la démocratie, pour la participation de tous, pour la représentation, est un combat central, essentiel. Mais la gauche doit être une gauche de gouvernement, doit être une gauche réformiste, doit être une gauche pro-européenne, doit être une gauche intelligente. Et je pense que les socialistes ont beaucoup de travail à faire, mais beaucoup de travail à faire pour réinventer leur logiciel intellectuel.
Message transmis à Olivier Faure.
Message transmis à tout le monde. Je pense que c'est une œuvre collective à laquelle tout le monde, tous ceux qui croient dans les idéaux de la gauche, doivent s'y attaquer. Un parti socialiste à 6%, qui s'exprime peu, qui ne convainc pas, c'est pas ça que j'ai connu. Et ce n'est pas ça que les Français attendent d'une formation socialiste. Peut-être faudra-t-il faire un nouvel Épinay, comme en 1971 François Mitterrand l'a fait, et dire voilà, le parti tel qu'il est, il a besoin d'évoluer, de se transformer, il faut créer quelque chose de nouveau.
Et vous êtes prêt à participer maintenant que vous allez être relevé de vos engagements à Bruxelles ?
Écoutez, je suis un homme qui a un attachement passionné pour son pays, que j'ai servi dans toute une série de fonctions, élu local, élu national, élu européen, commissaire européen, ministre pendant 7 ans. Je suis un Européen passionné, et après 5 ans passionnants, je le suis encore plus. Je suis un homme de gauche, mais de cette gauche qui transforme. Pas de la gauche qui proteste, la gauche qui transforme, qui agit. Et donc, je resterai cela. Je resterai attaché à mon pays, à servir l'État européen et de gauche.
Et de gauche. À partir de lundi, qu'est-ce que vous faites, Pierre Moscovici ?
Lundi matin, je réintègre mon corps d'origine, qui est la Cour des comptes.
On a entendu votre nom pour un jour être président de la Cour des comptes.
C'est pas quelque chose qui dépend de moi. Il y a actuellement un président de la Cour des comptes, il s'appelle Didier Migaud. C'est un ami, il fait remarquablement son travail. Bon, pour le reste, on peut aussi estimer que quelqu'un comme moi, qui est un membre de la Cour des comptes depuis trop longtemps, en fait, 35 ans maintenant, qui a été ministre des Finances et commissaire européen, peut un jour, aspirer à des fonctions. Et, bon, mais c'est pas pour moi une candidature.
Quand, c'est pas une candidature,
c'est vraiment pas moi qui décide, et je serais très heureux de réintégrer la Cour des comptes comme membre lundi matin et nous verrons.
Et plus si affinité.
Les affinités peuvent exister, mais les décisions ne sont pas prises par moi.
Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir été mon invité.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30. Et si on arrêtait de vieillir grâce à la science, l'éternelle jeunesse, vous en pensez quoi, vous? Hein? Impossible? Science-fiction? On verra, c'est pas si sûr. Et puis Inès Reg, vous connaissez les paillettes dans nos vies?
Les moulures au plafond.
Et voilà, évidemment.
Les toute la panoplie,
c'est à 19h45. Restez, assurément. Vous allez voir, hein, ça va fuser.
Vous connaissez Inès Reg, eh bien n'hésitez pas à venir nous en parler, vous aussi, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez participer à votre grand journal du soir avec le hashtag Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy.
L'actualité, c'est dans un instant avec un journal complet, celui de Sébastien Krebs. Et demain en France, demain dans le monde, bien sûr, c'est tous les soirs à cette heure-ci. On va commencer par demain en France, pour être logique, au plus près de vous, avec Jean-Luc Boujon, direction Lyon. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Demain, chez vous Jean-Luc, s'ouvre le procès en appel du cardinal Barbarin. On en a parlé avec notre invité à 18h20 pour non-dénonciation d'agression sexuelle.
Oui, c'est la deuxième manche judiciaire après le premier procès qui s'était déroulé en janvier dernier, au terme duquel l'archevêque de Lyon avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Durant ce premier procès, le cardinal Philippe Barbarin avait reconnu des erreurs. On s'en souvient dans sa gestion de l'affaire Prena, hein, ce prêtre accusé d'agression sexuelle sur des enfants. Des erreurs, mais pas de fautes. La justice, au terme d'un procès exemplaire où les victimes, des hommes aujourd'hui âgés d'une quarantaine d'années, avaient pu largement témoigner. La justice n'avait pas été convaincue par les explications du cardinal qui avait donc été condamné.
Il avait été condamné mais il avait fait appel aussi.
Oui, ce qui n'avait pas été compris du tout, notamment par les victimes à l'époque, parce que d'un côté il avait présenté sa démission au pape, ce qui pouvait vouloir dire « ok, j'ai compris », et puis de l'autre, il a fait appel, donc il conteste sa condamnation. Donc même au sein de l'Église, eh bien, cet appel est mal passé. Écoutez le père Pierre Vignon, curé dans le Vercors, et qui avait demandé il y a à peu près un an, la démission du cardinal.
Le procès renouvelle les blessures des victimes, le trauma qu'elles ont subi. Revivre tout ça pourrait très certainement s'en dispenser, d'autant plus qu'ils s'en tiraient pas si mal que ça, avec 6 mois avec sursis. Donc ça pouvait être réglé, mais là non, il faut aller jusqu'au bout. Bon, ben, très bien, on va jusqu'au bout, mais on va jusqu'à l'implosion du système, j'ai l'impression.
Le procès en appel du cardinal Barbarin qui démarre donc demain avec de nombreux témoignages, hein, et nouveaux témoignages dans la presse ces jours-ci. Et on le suivra avec vous, Jean-Luc Boujon, bien entendu, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Merci.
Merci à vous, Nathalie.
Demain dans le monde, c'est un petit peu plus loin, quelques kilomètres à peine. On part en Espagne lundi, démarre à Madrid la COP25, la grande conférence annuelle sur le climat. Henri Laguéry, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Alors c'est une COP un peu particulière car en fait elle devait se dérouler au départ au Chili. Hein.
Oui, effectivement, mais les troubles sociaux que connaissent le pays ont obligé Santiago à renoncer à cette organisation. L'Espagne a donc remplacé le Chili au pied levé et c'est une course contre la montre qui s'est engagée car Madrid n'aura eu qu'un mois pour tout préparer. 25 000 personnes sont attendues pour cette réunion qui a choisi pour slogan Time for Action. C'est le moment d'agir, vous le savez, il y a urgence, les catastrophes climatiques sont de plus en plus visibles, les rapports alarmants se multiplient. Mais pour respecter l'accord de Paris signé en 2015, il faudrait réduire les émissions de CO2 de 7,5% chaque année pendant 10 ans. Or, celles-ci ont augmenté de 3% l'an dernier à Madrid. Pour beaucoup, bien, les engagements pris ne seront sans doute pas à la hauteur des enjeux.
Et Henri, en plus, il y aura des absents à Madrid. Hein.
Oui, certaines délégations, celles des pays les plus pauvres, n'ont pas vraiment les moyens de venir. Emmanuel Macron ne sera pas là non plus. Il a choisi de rester à Paris, en France, à cause de la grève du 5 décembre prochain. Une personnalité, par contre, est évidemment très attendue. Mmh. Elle est déjà en route, c'est Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise. Elle était en Amérique, alors là, elle traverse l'Atlantique à bord d'un voilier. Si la météo le permet, elle arrivera à Lisbonne d'ici 8 jours. Mmh. Elle rejoindra ensuite Madrid en voiture électrique. On l'attend donc la deuxième semaine de la COP, c'est la semaine qui accueille les ministres et certains chefs d'État.
Et oui, elle fait tout à fond, en voiture électrique pour cette arrivée, Greta Thunberg. Merci beaucoup Henri de Laguéry, merci à vous depuis l'Espagne. Demain dans nos vies, c'est aussi votre rendez-vous sur Europe 1, au bout des doigts, avec vous Théophile Cossa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
La réalité virtuelle, elle arrive dans les blocs opératoires, j'ai du mal à le croire. Vous nous dites qu'elle va même pouvoir remplacer l'anesthésie?
Ouais Nathalie, ça paraît dingue, mais c'est très sérieux. Pour certaines opérations, la réalité virtuelle remplace déjà l'anesthésie générale chez les enfants. Ça se passe aux États-Unis. Dans un hôpital du Colorado, les petits peuvent choisir d'être hypnotisés avec un casque de VR plutôt que d'être endormi. Bah oui, pour un enfant, vous savez, une opération c'est stressant, il faut souvent utiliser l'anesthésie générale à défaut d'une simple petite anesthésie locale. Mais avec la VR, justement, plus de problème.
Ouais, c'est génial. Alors comment ça marche? Ça supprime vraiment la douleur? Toute la douleur?
Alors disons que ça détourne l'attention du cerveau. En fait, l'enfant rentre dans une immersion, dans un univers virtuel, un jeu vidéo par exemple, ce qui permet de gommer ses appréhensions, la lumière blanche dans les yeux, la vision des instruments, des aiguilles, les bruits. Et c'est vrai, pour certaines pratiques, la VR est tellement efficace qu'il n'est même plus nécessaire d'employer l'anesthésie locale. Le cerveau est complètement absorbé, il ne perçoit plus la douleur.
Et ça arrive chez nous, bientôt?
Alors, c'est en cours, ça se démocratise pour les adultes aussi, hein, notamment chez le dentiste grâce à la technologie d'une
start-up. Très bien. Voilà,
grâce à la technologie d'une start-up strasbourgeoise, vous faire arracher une dent sans anesthésie, vous, Nathalie.
Oh, bonheur.
Sans
anesthésie, mais attendez, je pars en courant.
Pas cap.
Pas cap.
Non, mais avec la VR.
Ah, mais avec la VR,
vous allez y aller.
Ouais. Ah, bah, bien sûr, ouais, avec la VR.
On essaiera.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy, dans votre grand journal du soir.
Eh bien, on va s'arrêter de vieillir.
Ça aussi,
c'est bien ça. Hein, alors vous restez pour tout savoir, pour tout connaître, pour tout comprendre. On vous donne les clés.
Et vous pouvez réagir et participer à votre grand journal du soir le 39-21. C'est le standard d'Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy tous les jours jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1.
Bah oui.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Sébastien est bien au rendez-vous pour de nouvelles infos.
Une délégation d'agriculteurs sera reçue par le Premier ministre le 3 décembre, annonce qui intervient après cette journée de mobilisation. Des milliers de tracteurs ont afflué vers Paris ce soir. Certains blocages d'agriculteurs se poursuivent, trafic très difficile dans les environs de Paris, notamment sur le périphérique. À retenir également ce soir la mise en examen de Michel Fourniret dans le dossier Estelle Mouzin. Le tueur en série n'a plus d'alibi le soir de la disparition de la jeune fille en 2003. Fermeture administrative immédiate ordonnée pour le centre de dons de la faculté de médecine Paris-Descartes après les révélations du magazine L'Express sur les conditions indignes dans lesquelles les corps donnés à la science étaient conservés. Une inspection va être menée. Et puis l'Olympique Lyonnais sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg ce soir en football en Ligue des Champions. Le score 0-0. On joue depuis 36 minutes. Et puis à 21h tout à l'heure, Lille reçoit l'Ajax d'Amsterdam.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous demain dès 18h.
À demain.
Anissa, beaucoup d'humidité demain.
Oui, effectivement, avec des pluies, Nathalie, sur presque toute la France. Demain, sur la Normandie, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le centre, le Limousin, ces pluies vont prendre un caractère orageux dans l'après-midi. Et puis rajouter à ces pluies le vent d'ouest qui souffle sur les côtes depuis quelques jours et bien qui va s'engouffrer dans les terres demain sur tout le pays avec des rafales en moyenne à 70 km/h. Sur le Cap Corse, ces rafales pourront même atteindre les 110 km/h. Alors finalement, il n'y a qu'une partie de la France qui sera au sec demain, c'est le pourtour méditerranéen. Voilà, sur le pourtour méditerranéen, journée au sec avec de belles éclaircies même dans l'après-midi et toujours le vent d'ouest qui souffle. Alors les températures, elles sont douces, profitez-en parce qu'à partir de lundi, on va prendre un bon petit coup de frais. Alors demain, 4 à 12 degrés le matin, 10 degrés pour Paris. Dans l'après-midi, nous aurons 10 degrés à Belfort, 13 à Caen, Saint-Étienne, Strasbourg et Paris, 15 degrés à Toulouse et Bordeaux et 19 à Bastia.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et nous allons parler de vieillesse. En tout cas, on va l'éviter.
Non, on va dire non au vieillissement. On va dire stop au vieillissement. La jeunesse éternelle n'est plus de la science-fiction. On en parle avec nos invités dans ce studio. Bonsoir à vous, François Siegel.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes directeur de la publication trimestrielle et fondateur de cette revue. Oui, demain, c'est le journal du temps qui change, le journal d'une nouvelle époque pour changer d'époque. Merci d'être avec nous. Le professeur Fabrice Chrétien est également avec nous en ligne, chef du service de neuropathologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, directeur d'une unité de recherche à l'Institut Pasteur travaillant sur les cellules souches. Bienvenue à vous.
Bonsoir.
Cette revue évidemment avec cette nouvelle vague. Comment vous expliquez ce phénomène, monsieur Siegel? On est obsédé par l'anti-vieillissement?
Depuis longtemps, ça n'a pas commencé. Ça a peut-être commencé avec Cléopâtre. On a peut-être après continué effectivement avec la Vénus de Botticelli. Depuis longtemps, on veut prolonger la vie. Et puis, globalement, les centenaires ne cessent de se développer chez nous. Je crois qu'en 1950, ils étaient 1500. On parle de 50 000 centenaires en 2050. Donc, en fait, la grande question, c'est évidemment pas, comment dire, sonner la mort, comme peuvent dire certains, mais essayer de vivre mieux, plus longtemps, puisque 100 ans, 120 ans semblent aujourd'hui des objectifs accessibles. Comment on vivra mieux jusqu'à 100 ans, 120 ans? Parce que à quoi ça sert de vivre
évidemment,
si ce n'est en bonne santé?
Alors, comment vivre mieux plus longtemps? Vous allez nous le dire dans un petit instant avec le professeur Fabrice Chrétien également. On sait aujourd'hui, professeur ? Il y a un processus scientifique pour ralentir le vieillissement ?
Alors oui, il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement sur le vieillissement. On a beaucoup étudié notamment des animaux inférieurs, des méduses ou des vers, et on a montré qu'un certain nombre de gènes régulaient le vieillissement, notamment en raccourcissant la longueur des chromosomes. Et on connaît les mécanismes biologiques qui sous-tendent ce vieillissement, et on connaît même les enzymes qui coupent la fin des chromosomes et qui sont une espèce d'horloge interne de la fin.
On connaît, dites-vous, hein, professeur Fabrice Chrétien, on arrive à manipuler, on arrive à, au-delà de connaître, on sait comment aujourd'hui modifier alors ?
Alors oui, on sait le faire, on sait le modifier, mais on sait le faire dans des êtres qui sont unicellulaires ou avec quelques cellules. On ne sait pas le faire chez les mammifères, bien entendu. Hein. Bon. Et donc encore moins chez l'homme et les primates.
Bon, on a des délais ? On sait ? On a une idée de quand on pourra agir sur les mammifères, les primates ?
Non, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plein d'autres facteurs que chez ces animaux très inférieurs. Il y a une autre façon de répondre à la question. Hein. On sait aujourd'hui peut-être pas aller vers l'immortalité, mais en tout cas retarder un certain nombre de maladies et de processus pathologiques avec l'hygiène de vie et puis surtout combattre les maladies et les prévenir.
Et oui, c'est ça. Alors François Siegel, vivre mieux plus longtemps. Voilà, on a quelques éléments aujourd'hui. C'est pas encore possible concrètement. C'est en tout cas un phénomène mondial.
On vit mieux, on vit plus vieux, ça c'est une certitude, en tout cas dans un certain nombre de pays
qui ont la
chance, je dirais, d'accéder aux soins. Alors si vous voulez me faire dire que la préoccupation est mondiale, certes elle est mondiale, et dans ce reportage effectivement qu'on a publié, par l'agence italienne Parallelo Zero, effectivement un des patrons de cette agence, il a eu envie de faire le tour, on va dire, de tous les laboratoires de l'immortalité dans le monde entier. On va dire des plus iconoclastes jusque presque aux plus sérieux, c'est-à-dire que les banques où on va conserver vos gènes globalement pour pouvoir aider évidemment la recherche, parce que plus il y aura de cas, plus l'intelligence artificielle fera des produits, et plus on pourra effectivement, avec de génomes qui auraient été séquencés, avancer sur les pistes de certaines maladies. Il y a aussi globalement les gens qui considèrent qu'il faut faire cryogéniser effectivement parce que la science dans quelques années permettra de les réveiller. Alors aux États-Unis ça coûte 200 000 euros par exemple, si on a envie. Donc ça, c'est plutôt considéré comme... Voilà,
on va faire un petit tour du monde, d'ailleurs, dans quelques instants, donner quelques illustrations à nos auditeurs qui nous écoutent, ces illustrations que vous proposez dans Oui Demain, cette revue trimestrielle. On va se retrouver avec vous, professeur Fabrice Chrétien, également. À tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h, sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, aujourd'hui, on essaye de stopper ou de ralentir le vieillissement. Avec vos invités, vous pouvez bien sûr réagir, nous appeler au 3921 ou poster vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et oui, stopper ce vieillissement, et d'ailleurs c'est une bonne nouvelle pour les 78% de Français qui ont peur de vieillir. Le professeur Fabrice Chrétien est en ligne avec nous, chef du service de neuropathologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, directeur d'une unité de recherche à l'Institut Pasteur, travaillant justement sur les cellules souches, et François Siegel, en studio, directeur de la publication et fondateur de cette revue trimestrielle Oui Demain. Évidemment, un dossier y est consacré, les aventuriers de l'immortalité, avec ce tour du monde que vous nous proposez, avec des expériences et même des expériences très concrètes dans un certain nombre de pays. On va y venir dans un instant. Sarah est en ligne avec nous depuis Cannes. Bonsoir Sarah.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes diététicienne et micronutritionniste. Et vous avez une clé pour bien vieillir, pour moins vieillir.
Ah oui, j'en ai pas qu'une en fait. Mais la toute première, en effet, c'est que, évidemment, bon, l'exposition aux UV, au stress, au tabac, l'alimentation déséquilibrée, surtout notre avancée dans l'âge, elle fait qu'on produit des excès de radicaux libres. Donc, on rouille un petit peu. Donc, notre première ligne de défense, c'est de mettre de la couleur dans notre assiette avec du vert, les avocats, de l'orange, des carottes, par exemple, puisqu'on est en plein dans la saison, du potiron et je dirais du rouge pour les myrtilles. Ça, c'est vraiment notre première ligne de défense. Et la deuxième, parce que je sais qu'on est pressé par le temps, c'est de faire appel à la micronutrition. Qu'est-ce que c'est ? C'est de supplémenter, en fait, d'apporter un complément alimentaire riche en antioxydants. Par exemple, du zinc, du sélénium, voilà. Et notamment aussi, on en entend parler des déficits en vitamine D, parce qu'il faut insister là-dessus, c'est important. Et comme on le voit fleurir dans certaines crèmes, parce que c'est un petit peu ça, et ça devrait mettre la puce à l'oreille de nos auditeurs, c'est le resveratrol, par exemple, qu'on voit fleurir dans les crèmes anti-âge, le coenzyme Q10, et bien ça, par exemple, ce sont des super puissants antioxydants qu'on trouve dans les compléments alimentaires.
Bon, bah, c'est très bien, c'est très pratico-pratique, ça s'utilise tout de suite. Merci beaucoup, Sarah, depuis Cannes, de nous avoir contactés ce soir. Alors, c'est vrai qu'on va aussi plus loin hein, dans votre revue, François Siegel, et avec le professeur Fabrice Chrétien. François Siegel, juste, il y a évidemment différents chercheurs, il y a évidemment différents laboratoires de par le monde. Il y a forcément une forme aussi d'escroquerie, de manipulation, de doute et d'inquiétude à avoir sur tout ce qui peut se jouer.
Ah bah oui, parce que c'est un tel enjeu, je crois qu'on parle de 50 milliards de dollars, évidemment, pour les grands labos, ça va être le jackpot.
C'est
hein.
Ça.
La pilule qui permet de faire rajeunir, c'est très bien qu'on peut prendre, des actions tout de suite. On avait publié d'ailleurs dans une précédente revue, mais toujours sur la base du travail sur ces cellules quoi, responsables du vieillissement, qui s'appellent les télomères, aux États-Unis, déjà, vous pouvez ingurgiter des substances globalement anti-vieillissement. Bon, après, à vos risques et périls. Ce qui est intéressant aussi, et dans ce tour du monde, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des règles intangibles avant que la science Là, parce que les pistes sont vraiment, je pense, très sérieuses.
Mais
voilà, avant que la science, il y a quand même des règles de conduite. Il y a ce qui aussi motive et guide les chercheurs, c'est ce qu'on appelle ces zones bleues, c'est-à-dire ces zones où, pour des raisons qu'ils cherchent à appréhender, les gens vieillissent. Les gens vieillissent bien et vivent vieux et en bonne santé. Alors, il y a forcément le très célèbre Okinawa au Japon, mais il y en a d'autres. Il y en a en Europe, il y a une île en Grèce. Et en fait, les règles sont toujours la même. Hein. Malheureusement, il faut vivre en bonne santé, pas de stress, pas trop manger, évidemment, pas fumer. Ouais. Et surtout, être dans une ambiance, quoi. Je veux dire, avoir respiré un air pur. Bon, il y a quelques règles de base.
Il y a quand même quelques règles de base.
Voilà, il y a quelques règles de base.
Quand même, professeur Fabrice Chrétien, si on arrive à aider le corps à ne plus vieillir ou en tout cas à ralentir ce vieillissement, quid de nos neurones, de notre cerveau?
Ah, vous savez, on a fait une grande découverte il y a maintenant quelques décennies qui est qu'on a la capacité de fabriquer des neurones et des nouveaux neurones jusqu'à notre mort. Moi, j'avais appris à la faculté de médecine qu'on essaie avec un stock défini de neurones et qu'on ne faisait que les perdre. En fait, ça n'est pas vrai. Donc, je ne suis pas certain que le gros enjeu, ce soit notre cerveau et notre capacité à faire des nouveaux neurones. Le cerveau, ça s'entraîne et on peut les fabriquer. Non, je pense que ce qui est très important, c'est effectivement une espèce de vieillissement harmonieux où tous les organes vont fonctionner de concert et vont pouvoir prendre en charge un corps qui mécaniquement va un peu s'user ou un cœur qui va se fatiguer. C'est ça l'enjeu, pas spécifiquement de protéger un organe plutôt qu'un autre ou un type de cellule plutôt qu'un autre.
Ouais.
Je voudrais juste rajouter quelque chose sur cette question des télomères et du fait de...
Expliquez-nous d'ailleurs, réexpliquez aux auditeurs peut-être. C'est pas évident.
Les télomères, c'est des petits bouts d'ADN qui sont très longs quand on est et qui sont à l'extrémité de nos chromosomes et ceux-ci se raccourcissent au fur et à mesure qu'on vieillit et puis au bout d'un certain temps, il n'y en a plus et puis c'est vraiment le vieillissement et le début de la fin, j'ai envie de dire. En revanche, ce que l'on sait, on sait faire des cellules immortelles au laboratoire, on en fait tout le temps. Ouais. Les cellules immortelles au laboratoire, c'est les cellules cancéreuses. Ouais. Donc jouer avec cette balance, c'est aussi quelque chose de très risqué, parce que ça pourrait voir le développement d'un certain nombre de cancers. Donc la potion magique, je rallonge mes télomères et du coup mes cellules deviennent immortelles et moi-même je deviens immortel, c'est malheureusement pas si simple.
Ouais, c'est ça, faut pas croire au Père Noël. Merci beaucoup professeur Chrétien. Enfin, François Siegel, une dernière question, et puis évidemment on renvoie à Oui Demain, cette revue pour changer d'époque, votre trimestriel. L'intelligence artificielle, on l'a vu, hein, d'ailleurs, s'implanter une micropuce, ça c'est déjà le cas à Moscou, en Russie, c'est une des pages qu'on peut découvrir dans votre dossier, ces aventuriers de l'immortalité. Ça va être l'intelligence artificielle, la biotechnologie, on va être mixé.
C'est une autre piste, c'est l'augmentation de l'individu face au progrès exponentiel de la machine et du machine learning. Il y a des théories, des gens qui considèrent que la seule voie de l'homme, ça sera évidemment de s'augmenter pour résister à la machine. Là encore, vaste débat.
Vaste débat et toutes ces pages et toutes ces informations, ce dossier à découvrir dans Oui Demain. Merci beaucoup.
Merci
François Siegel. Merci au professeur Fabrice Chrétien.
Europe 1.
Et pour rester jeune, Nathalie, vous savez qu'il faut rire.
Il faut mettre des paillettes dans sa vie.
On va rire dans un instant avec votre invité. On va parler humour, c'est ça?
Oui, alors Diane Chinouda va venir nous raconter Inès Reg, ce personnage absolument hors norme.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy. Et c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h et tous les jours avant 20h, on parle culture. Nathalie Lévy, dans un instant, on va parler humour avec un coup de projecteur sur une jeune humoriste que vous connaissez certainement, Inès Reg. Mais avant ça, c'est la musique avec la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir?
Le tout nouveau titre de Louis Chédid. Tout ce qu'on veut dans la vie, on veut tout.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Tout ce qu'on veut dans la vie.
Ça fonctionne toujours bien, Louis Chédid. Hein. Là, c'est très enlevé, très léger. Ça fait du bien, Louis Chédid, qui signe son grand retour avec ses nouveaux singles, Tout ce qu'on veut dans la vie. Chanson originale qui annonce le 28 février 2020 la sortie de son nouvel album. Le papa de M sera en tournée dans toute la France dès le mois de mars avec un arrêt sur la scène de l'Olympia. Noté le 27 mai 2020.
Et prochain titre à découvrir dans la playlist du 18-20, ce sera demain à la même heure. La culture au sens large, Nathalie Lévy, ce soir. Lumière sur une nouvelle humoriste que vous adorez, qui cartonne, que de nombreux Français adorent. Elle s'appelle Inès Reg. Portrait ce soir avec Diane Chénouda.
Bonsoir Diane.
Bonsoir Nathalie.
Ah ouais,
bonsoir,
on est fou d'elle. On connaît son sketch par cœur. Les paillettes dans nos vies.
Franchement, c'est impossible. On va essayer de mettre des paillettes dans vos vies ce soir.
Dans nos vies.
Alors évidemment, impossible d'échapper à cette vidéo qui a fait le buzz sur la toile et qui a tout déclenché pour cette jeune femme de 27 ans. Écoutez.
Tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah, si, c'est vie. Quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Arrête. C'est quand? Où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres?
C'est extraordinaire. Et en plus, c'est très récent.
Mais oui, c'est très récent. Alors, elle l'a posté il y a 3 mois. Mais ça a fait un buzz énormissime qu'elle ne soupçonnait même pas, hein, puisque je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, mais c'est hallucinant ce qui s'est passé. J'aurais pas imaginé que c'est cette vidéo qui aurait fait ce buzz. Et du coup, d'ailleurs, tout le monde la reprend, même les enfants. Mais c'est un phénomène hallucinant.
Intergénérationnel.
Ça devient une expression maintenant, mais des paillettes dans ma vie.
Absolument, absolument, Anissa. Mais oui, elle l'a déposé. Ça a été détourné par la pub. Enfin, bon, c'est un truc de fou, quoi. C'est ouf, comme elle dirait. Phrase culte. Et donc. Bah alors,
elle vient d'où?
Alors,
parce qu'en fait, attention, hein, voilà. c'est pas une.
Non, non.
C'est tombée de la dernière pluie.
Absolument. Elle ne vient pas de nulle part, en effet. Elle a fait le Marrakech du rire, mais avant ça, elle est issue du Jamel
Comedy Club.
Hein, donc, elle s'est fait remarquer là. Ça fait 4-5 ans qu'elle tourne. Jamel Debbouze l'a invitée au Marrakech du rire cet été. Donc, ça a été, comme elle dit, un peu la première flamme qui a été allumée. Et effectivement, donc, du coup, cette vidéo, bon, bah, ça a fait ce qu'on connaît, là, le buzz qu'on connaît. Et du coup, ça remplit la salle du République où elle joue. C'est un truc de fou.
Et vous
les gens viennent pour cette vidéo. Je l'ai vu.
Ça donne quoi?
Bah, écoutez,
ils sont tous du même acabit, ces sketchs.
Ah mais,
allons-y.
Ah mais oui. Si vous voulez, le sel du spectacle, c'est elle. On vient moins pour un texte, vous voyez, comme Blanche Gardin ou d'autres, que pour elle, parce qu'elle est unique, parce que tout simplement, c'est une nature, c'est un tempérament, c'est une personnalité incroyable. C'est une petite brune comme
elle
ça, mais qui a un charme fou,
qui
a une énergie incroyable, qui vous lance comme ça des éclairs, qui balaye la salle avec ses yeux énormes. Elle est hyper expressive, vous voyez, ça aussi,
un tempérament,
ça joue.
Quoi,
c'est un clown elle-même, un tempérament. On écoute un extrait, elle parle beaucoup évidemment des rapports hommes-femmes.
On est toutes jalouses parce qu'on a peur que notre mec nous trompe. Bah, on a toutes peur de ça et en vrai j'ai trouvé la solution les filles et je suis sûre c'est de notre faute. En fait si on était toutes solidaires...
Ah bah oui.
Ah bah ouais, ils nous tromperaient pas. Hein
la recette.
Ah les connasses. Parce qu'il y a des meufs, elles sortent avec des mecs en couple, après elles sont là, oui mais moi je savais pas qu'il était en couple.
Meuf, il y a des indices.
Le mec il t'appelle que après minuit. Dans son répertoire, tu t'appelles Mehdi Foot en salle.
Ouais, c'est ça. Elle est hyper spontanée. Elle vous parle comme si on était à côté d'elle. Et vous, quand elle vous a rencontré, quand vous l'avez rencontrée, elle vous a parlé comment?
Ah bah, écoutez, elle était très cash aussi, mais bon, un peu plus en retenue, on va dire. Mais elle parle vraiment. Elle est sur scène comme elle est dans la vie. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle est cash. C'est ce qu'elle dit. On écoute.
C'est vrai que les thèmes que je fais sur scène sont les thèmes qu'on fait tous en général, mais c'est parce que moi, c'est ce que je vis et je le fais à ma manière. Et effectivement. J'ai pour but de raconter la vraie vie. Quand je raconte une dispute de couple, je dis ce qui se passe vraiment dans la dispute de couple et j'essaye pas de trouver les bons mots. Je trouve les mots justes, j'ai l'impression. Juste, ça se passe comme ça, donc je le dis comme ça. Et c'est vrai que des fois, j'ai souvent entendu, on me disait tout le temps, oui, Inès, c'est comme un diamant brut. Il faut aiguiser à des endroits parce que c'est vrai qu'elle est directe, qu'elle est machin et tout. Et non, j'aime bien être un diamant brut. Donc oui, j'aspire à ça et je veux continuer à faire en sorte que les gens se reconnaissent et se disent vraiment, c'est une nana comme nous ou c'est une nana comme notre nana. J'aime bien quand les gens sortent du spectacle et disent oh, j'ai l'impression que t'es ma pote, que t'es mon amie, que tu fais partie de la famille.
Et d'ailleurs, ouais.
De spontanée et transparente, quoi.
Voilà, exactement. Elle est fraîche, comme ils disent. Mais c'est vrai, elle est naturelle. Et c'est ce qui plaît. Et alors, le ressort aussi du spectacle, l'autre ressort, c'est qu'elle joue avec le public, mais comme personne, vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, elle va demander, sur le thème du mariage, ouais. Elle prend quelques coupes comme ça dans la salle, et elle demande au mari, alors, comment t'as fait ta demande en mariage, toi? Et après, elle rebondit dessus. Elle a un talent d'improvisation.
Donc, il y a de l'impro, ouais.
Mais une méga impro. Elle a un talent fou là-dessus. Vraiment, vraiment. Et du coup, mais on est fasciné.
Cette interactivité, forcément, ça fonctionne.
Ça fonctionne, mais elle le fait intelligemment, vous voyez, elle est vraiment très forte, elle a beaucoup de talent. Et donc, voilà, d'ailleurs, elle le dit, le public, c'est son carburant, on l'écoute.
C'est vrai, je bouge partout, je veux avoir tout le monde et j'ai besoin de mon public. Mon public est mon essence, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'ils me donnent pour leur donner en fois un milliard. Et du coup, je leur parle tout le temps. À chaque fois que je parle d'un thème ou d'un sujet dans mon spectacle, je leur demande si eux, ils l'ont déjà vécu, comment ils l'ont vécu. Et de là, on repart sur un autre sujet tout le temps. Je ne peux pas faire sans eux.
Ouais. Et le public, je peux vous dire, repart alors avec des paillettes dans les yeux.
Parce qu'on l'adore. C'est les paillettes dans les yeux, c'est Kevin, c'est une fille qui est pétillante, pleine de vie. C'est vrai que c'est un peu le quotidien de chaque fille, chaque jour, chaque femme.
Ouais, génial, génial. Elle est pétillante, elle est fraîche, elle est lumineuse, elle est adorable. C'est un super spectacle, on s'est vraiment marré. Ouais. Parce que ma femme m'a parlé des paillettes.
Moi, elle m'a fait sourire, rire toute la soirée. Elle fait du bien et elle a mis des paillettes dans notre soirée. Ouais, parce qu'elle nous parle. Je pense que tout le monde a envie d'avoir des paillettes dans sa vie. Et c'est sa manière de parler, ses mimiques. Voilà, elle m'a touchée, j'avais envie de la voir en vrai.
Oh, mais femme conquis ?
Ah oui, complètement, on est subjugués en fait. Allez, le mot de la fin ouais. À Inès qui nous promettait des paillettes dans notre vie ce soir en début de spectacle et qui nous lâche en nous disant « Soyez hors normes, mettez des paillettes dans votre vie ».
Ouais, le message il est là, soyez vous-même. Et quand je parle de paillettes, c'est profiter de la vie, kiffer votre vie, allez-y à fond quoi. Vraiment, faites les choses à fond, comme je peux l'être sur scène, à fond, totalement folle, sans limite. Et ben, faut être comme ça dans la vie.
Voilà, on va être comme Inès.
On va essayer d'être comme Inès. Franchement, je pense qu'elle va faire du cinéma très rapidement, cette fille.
Ah ouais, voilà, vous pariez sur elle.
Je parie sur elle.
Ok,
voilà,
très bien.
En tout cas, elle joue à République jusqu'à fin juin. En République, précisément.
Exactement, en République, elle tourne déjà. Voilà, tournez déjà.
Et il faut la suivre sur Instagram. Sur Instagram, elle continue de faire beaucoup de vidéos, c'est très drôle.
Voilà, tour des Zénith également. Et elle parodie les Césars à la fin de son spectacle.
Ouais, c'est très drôle.
Merci, Diane. Nous avez mis des paillettes dans cette fin d'édition, Émilie Mazoyon. On vous en moi d'ailleurs, bienvenue.
Ah merci, je prends les paillettes. Comment ça va la bande?
Ça va bien et vous?
J'entends, vous vous amusez bien. Alors ouais, moi ce soir, je vais avoir des paillettes, de la perruque.
Ah, et du maquillage. Wow.
Mais
ah.
Je sais, bien sûr.
Allons-y.
Quelle star. C'est notre petit Bilal Hassani qui depuis l'Eurovision a fait du chemin. Pensez donc, il a rempli l'Olympia, il a sorti un album, et puis une réédition de cet album, et puis un livre, et puis une collection de vêtements bientôt. Enfin, il n'arrête pas, donc il vient faire le point ce soir dans Musique.
Et puis, il est aussi l'image d'Europe 1 depuis quelques semaines.
Écoutez,
vêtements sur les affiches.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Bon, voilà, on est au complet.
Alors, on a préféré ça. Vous avez bien fait.
Merci Émilie Mazoyer, on vous écoute évidemment avec votre invité. Merci à tous de nous avoir suivis. Le 18-20 revient demain ici même, même heure, même endroit. Anissa.
18h pile.
On vous embrasse, on vous salue, on vous dit merci de votre fidélité et on vous dit surtout de rester avec nous pour écouter Le Monde Changer.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.